Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est un magnifique samedi après-midi qui nous attend, des grands événements. Et oui, c'est comme ça, le mois de juin, c'est toujours le mois des finales, le mois des grands rendez-vous sportifs, les qualifs du Grand Prix de Monaco. On va y aller dans un instant. Ben oui, c'est le Grand Prix le plus glamour de la saison, évidemment. Il fait un temps magnifique sur la Principauté. Jean-Luc Roy s'est mis en short et il va nous raconter les qualifs dans un instant. Également, un temps magnifique, mais il y a un petit peu de vent tout de même à Roland-Garros pour la finale dame qui pose depuis un bon moment maintenant la Russe Andreeva à la Polonaise. Je vais demander à Sarah, comment prononce-t-on Kralinska, voilà, c'est ça, c'est le mot qu'il faut prononcer. Bon, Kralinska qui... Aïe, elle connaît un petit coup de moins bien là dans la première manche, Eric.
Ouais, 5-3 pour Mira Andreeva qui vient de remporter sa mise en jeu avec un point assez fabuleux parce que Kralinska a tenté une amortie qui était parfaite. Elle est retombée juste à le filet et Mira Andreeva donc a eu une belle main. Elle a fait une contre-amortie qui a effleuré le filet. Et ensuite, la Polonaise a dû lever la balle et la Russe a conclu avec une volée haute de revers. Donc ça fait 5 jeux à 3 après 39 minutes de jeu. Elle a pris une petite option parce que tactiquement... Elle est parfaite pour l'instant, Andreeva.
Ouais, elle a été bien préparée. On sent une jeune fille qui a fermé toutes les écoutilles. Elle n'entend pas les supporters, ou en tout cas les spectateurs qui sont, on va le dire très clairement, un peu plus pour Kralinska. Et elle ne s'agace pas du jeu de la Polonaise. Elle est toujours sur les avant-pieds, prête à ajuster toutes les trajectoires que la Polonaise lui propose. Elle ne se presse pas. Et elle est en train petit à petit de grignoter et de faire rater la Polonaise. Et je trouve que ce qu'est en train de faire Andreeva, c'est très fort émotionnellement parce que là, elle lutte contre ses propres émotions. Elle joue parfaitement bien, la Russe.
5-3 et 0-15 sur sa vite de la Polonaise. Hein. Peut-être que le 7 va se terminer sur ce jeu, Christophe.
Bon, on revient vers toi dans un instant. On va aller faire un petit coucou quand même à Jean-Luc en Principauté de Monaco. Je le disais, Grand Prix le plus glamour de la saison. C'est toujours un must, évidemment, ce Grand Prix de Monaco qui, depuis que le championnat du monde de Formule 1 existe en 1950, a toujours eu lieu tous les ans. Et c'est pas Jean-Luc qui va me démentir, lui qui adore Monaco et qui a vu toutes les stars. On a vu Kim Kardashian tout à l'heure. Jean-Luc, comment ça se passe à Monaco? Bonjour mon Jean-Luc.
Oui, bonjour mon Chris, bonjour à tous. Bah écoute, très bien, forcément. D'abord, comme tu le disais, la météo est absolument idéale, absolument parfaite. Il fait 24 degrés, 44 degrés sur la piste, donc les meilleures conditions possibles pour avoir une qualif exceptionnelle. Tu le sais, à Monaco, c'est un morceau de bravoure. Et même si, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas toujours le poleman qui l'emporte, il l'a emporté à 15 reprises sur les 22 derniers Grands Prix.
Ouais, d'accord, donc effectivement, ça donne un sérieux avantage. On revient vers toi dans un instant, Jean-Luc, mais là, il y a quasiment une balle de 7 pour Andreeva. Elle est à 2 points du premier set, la Russe, face à la Polonaise Kralinska. Eric Salio et ça.
5 jeux à 3 pour Mira Andreeva et Kralinska est à 0-30. Elle a commis quelques fautes, puis surtout elle se fait agresser par son adversaire. Comme
encore
ici, qui est 0-40, Sarah, balle
oui,
de 7.
Parce que la Russe est à les deux pieds à l'intérieur du court et maintenant qu'elle est devant au score, eh bien elle prend un peu plus de risques. Elle prend encore un peu plus tôt la balle, donc elle laisse peu de temps à son adversaire de se replacer. Et donc elle est en train de lui marcher tout doucement dessus. 3 balles de 7 pour Mira Andreeva.
5-3, 0-40, 42 minutes de jeu. C'est compliqué pour Maya avec sa petite tenue jaune là. Et le service, elle ne fait pas de point gratuit avec son service puisqu'elle sert elle veut servir à 155. Mais là, elle est débordée. Attention,
Andreeva
qui monte le court croisé,
ouais.
C'est fait.
Accélération
pour Mira Andreeva. La moitié du chemin est faite pour la Russe.
Ah, bon, alors, entre Sarah, qui est d'origine polonaise, Flavien, mon producteur, tout le monde est pour la Pologne aujourd'hui, et là, c'est un peu plus compliqué. La belle, le beau conte de fées va peut-être se terminer tout à l'heure pour Kralinska, qui est donc menée 1-7-0 par Mira Andreeva, la Russe, tête de série numéro 8, qui mène 6 jeux à 3, qui vient de remporter la première manche. 16h09, un petit détour par un autre événement de ce samedi après-midi, c'est le Final Four du hand féminin, avec deux équipes françaises engagées dans ces demi-finales. Heureusement, pas l'une contre l'autre. Tout à l'heure, Brest jouera. Pour l'instant, c'est Metz qui est opposé à Bucarest. Kevin Morand est sur place. Salut Kevin.
Salut Christophe, salut à tous. On joue depuis 16 minutes dans la seconde période de cette demi-finale. On espère que Budapest va continuer à porter chance au club français après la victoire du PSG ici même, à quelques kilomètres d'ici à la Puskás Arena. Et bien...
Voilà, Budapest, on va retrouver Kevin dans quelques instants, mais pour l'instant, ça va plutôt pas mal pour les Messines qui mènent 25-18. Nous sommes également à Bruxelles avec Jean Baumel pour le match amical, le dernier match amical avant le début de la compétition pour les Diables Rouges, les Belges qui affrontent la Tunisie. Salut mon Gibo.
Salut mon Christophe, et ça fait toujours 1-0, reprise de cette seconde période là pour les Diables Rouges, 49e. Il devrait mener 2 voire 3 voire 4-0, mais ça fait seulement 1-0, but de Leandro Trossard, tu sais, lui qui a perdu contre le PSG en finale de la Ligue des Champions avec Arsenal. Et quand on voit devant les Doku, les De Bruyne qui sont en grande forme, et puis Leandro Trossard, il y a quand même des choses intéressantes, hein. Lukaku aussi qui revient bien et qui va peut-être jouer les dernières minutes de cette partie comme ce fut le cas contre la Croatie. Offensivement, ils ont des arguments, les Belges, c'est les outsiders pour cette Coupe du Monde. On verra ça, départ lundi pour eux, mais pour l'instant tout se passe bien pour Rudy Garcia et ses Diables Rouges. Ils mènent tranquillement 1-0, but de Trossard, 28e.
Merci Gibo, il est 16h11, on revient dans un instant, on va vivre la fin de la Q1 en intégralité avec Jean-Luc Roy, sachez donc qu'à Roland-Garros, Mira Andreeva, la Russe, mène 1-7-0 face à Halinska, la Polonaise. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessier.
Du tennis, du foot, de la Formule 1, il y en a pour tous les goûts, même du hand cet après-midi. Juste un tout petit détour par Bruxelles avec un deuxième but pour les Diables Rouges belges face à la Tunisie, Jean Baumel.
Ah, exactement, c'était logique de voir un deuxième but au minimum pour les Diables Rouges. Bon centre de Tillmans à la 52e, la tête de Kuettler, le joueur de l'Atalanta, et ça fait mouche dans la cage du gardien Mouib Chamakh, le gardien tunisien. 2-0 pour la Belgique, qui risque de creuser l'écart si ça continue comme ça. 55 minutes de jeu, les Diables Rouges sont devant 2-0.
Et puis la deuxième manche a débuté, la deuxième manche de la finale dame. Je vous rappelle que Andreeva mène 1-7-0 et que Halinska a tout ce qu'elle veut là. En ce début de deuxième set, on ira retrouver Eric et Sarah dans un instant, mais on va vivre la fin de la Q1, à moins que la qualif soit interrompue, mon cher Jean-Luc, car il y en a un qui a fait un tout droit et qui s'est raté, et ça va évidemment obliger les commissaires à sortir ce qu'on appelle le red flag, hein. Le red flag, ça veut dire on arrête tout et on recommence, ou presque.
Absolument, absolument, Christophe. Apparemment, c'est Bortoletto, oui, qui aurait commis une erreur. Donc, drapeau jaune d'abord et drapeau rouge ensuite. Donc, à 2 minutes et 11 secondes exactement du terme, oui, il est dans une mauvaise posture. Ça se passe effectivement à la chicane du port, hein, la chicane la plus rapide. Il a tiré tout droit. Quand on prend un petit peu le vibreur à l'intérieur du deuxième, il y a un gauche, un droite. Et effectivement, il a cassé la suspension avant. C'est ce qu'il vient de dire à ses ingénieurs. Et évidemment, on fait la tête du côté de Mattia Binotto, le patron de l'équipe. Dommage pour Bortoletto, qui était effectivement performant depuis le début. Les Audi, on les a souvent vus dans le top 10, dans les trois séances d'essais libres. Là, il est 14e. Le problème, c'est que, évidemment, il va rester au mieux 14e, parce que je pense qu'on va relancer les qualifs pour ces 2 minutes et 11, puisque 2 minutes et 11 secondes, puisque ça va permettre aux pilotes de refaire un tour de mise en température. Ah oui, là, c'était exactement ce que j'ai décrit, c'est-à-dire qu'il a pris le deuxième vibreur et il y a d'abord un gauche à la sortie du tunnel, tu sais, l'énorme freinage qui mène à la chicane du port, et puis si on prend évidemment le vibreur un peu trop violemment ensuite, eh bien la voiture décolle et on n'a pas de possibilité pour prendre l'enchaînement qui suit. Voilà. Bon, c'est petite cause mais grands effets. Ça veut dire que Bortoletto devrait être 14e sur la grille de départ, ce qui est un peu, je le disais, une déception, parce que les Audi ont fait mieux, hein. Jusque-là, les Audi sont plutôt très bien débrouillés, puisque son équipier Hülkenberg, Nico Hülkenberg, le vétéran allemand, peut-on dire, eh bien, il est 6e pour le moment. Alors, je répète qu'on est en Q1, le coup près va tomber. Et on va éliminer les 6 pilotes les moins rapides. Pour le moment, eh bien évidemment, c'est les 2 Aston, les 2 Cadillac et malheureusement peut-être Carlos Sainz.
Oui, c'est dur pour les anciens, hein, les Alonso, les Sainz, Bottas, Perez, qui vraiment garnissent le fond de grille en ce moment, alors qu'ils ont été quand même les cadors de ce sport il y a peu de temps. On te retrouve dans quelques instants, Jean-Luc, pour on l'espère vivre les 2 dernières minutes de cette Q1. Pour l'instant, le meilleur temps de cette Q1 a été réalisé par Charles Leclerc sur sa Ferrari devant Verstappen, Antonelli et Norris. 16h18, à ce rythme-là, la finale dame pourrait rapidement se terminer. Andreeva, on rappelle, a remporté la première manche et elle a quasiment, non pas encore, mais elle mène sur le service de son adversaire, Eric et Sarah.
Oui, 6-3-1-0 pour Mira Andreeva. Et oui, tu l'as dit, Maya Radinska est au service. Il y a 15-30, Sarah. Donc c'est une situation qui peut devenir dangereuse pour la jeune Polonaise. Si jamais la Russe remporte ce point, ça lui donnerait donc 2 balles de break. Oh là là, elle a failli tenter l'amorti, mais je pense qu'elle a senti qu'en face, ça avait tout compris. Et voilà, 15-40, Sarah. Attention, danger. Oui.
Danger pour la Polonaise, parce que Andreeva joue parfaitement le tennis. Elle ne se presse pas. Elle sait que son adversaire ne peut pas lui faire du mal. Donc elle renvoie, elle remet toujours et elle force Radinska à prendre plus de risques. Et c'est pour ça que le match a, alors qu'il était très équilibré jusqu'à 3-3, hein, vraiment, on a eu un superbe début de match. Et puis.
Elle prend l'ascendant, là, clairement.
Et elle a pris l'ascendant sur le plan psychologique, mais même sur le plan du jeu. Et pour l'instant, elle semble un peu sans solution, la Polonaise, pour la première fois de ce Roland-Garros.
Attention, elle est sauvée, cette première balle de break dans ce début de deuxième manche. Elle a pris une rafale, Mira Andreeva. Tout à l'heure, pendant que c'était la pause à la fin du premier set, il y a eu des bourrasques de vent terribles, à tel point que les ramasseurs de balles tournaient le dos à la direction du vent, parce que sinon, ils prenaient la poussière dans la figure. Et heureusement, ça s'est un peu calmé là, à la reprise, mais... C'est vrai que ce sont, on le rappelle, des conditions de jeu qui sont vraiment pas simples. Faut s'adapter. On pensait que Radinska, avec son jeu, pouvait s'adapter le mieux, mais elle est très habile. Elle a une belle main, Andreeva, Sarah. Et c'est ce qui lui permet de mener et peut-être de se détacher dans cette deuxième manche. Il y a un très très long rallye. Ça fait des moonballs. Qui va craquer? Aucune des deux ne veut lâcher ce point. Elles savent toutes les deux que c'est un point important. Petit slide de défense de Andreeva avec sa patte gauche. La Polonaise est prise là. Elle est prise.
Alors, elle est où?
Elle est bonne. Elle est faute. Elle est annoncée faute.
Elle demande à
Arnaud Gabas de descendre de sa chaise pour montrer que la balle est bel et bien faute. Confirmé par Arnaud Gabas, donc faute. 40 à. Ouf, elle a eu très chaud.
Elle a sauvé 2 balles de break quand même.
Ouais, 2 balles de break et encore une fois là, ce dernier rallye est à l'image de ce qui se passe depuis le début de la rencontre. On a quand même des très longs rallyes entre les deux joueuses et ça se joue à pas grand chose, hein, mine de rien. Allez, c'est Radinska qui est au service. Ouais, 40 à.
Il faut vraiment qu'elle s'accroche.
Il faut mettre une première. Hein.
C'est un peu long. Une première à 139.
Parce qu'elle a pas de bonnes stats, hein, au premier service. Elle se fait, les points gagnés derrière sa première sont en dessous de 50%, hein, pour Radinska. Donc elle est vraiment très exposée. Et c'est même en dessous de 30% sur la seconde. Donc
bon retour en deuxième là de Mira Andreeva qui est quand même en difficulté.
Qui veut prendre des risques. Ça sort,
Maya, avantage. Andreeva est en train de craquer petit à petit, j'ai l'impression.
C'est un grand mot.
Elle est poussée
dans ses retranchements.
Elles étaient à 3-3 dans la première manche, c'était très disputé. Elles avaient du mal chacune à conclure sur leur service. Et puis d'un seul coup, ça s'est déréglé. Et Andreeva a pris le dessus, là.
Elle est sur le pont depuis le 18 mai, Christophe. Premier tour des qualifs, tu te rends compte?
Bon, ça tire lien. Elle s'est bien remplie aussi, quand même. Hein.
Oui, c'est pas
fou. Un million quatre.
Oui, mais moi je te parlais de sa condition physique.
Oui, mais ça donne des ailes.
Tu penses pas qu'elle tire un peu la langue là?
Bah oui, forcément.
Ah oui, quand même. Ouais. Attention, deuxième balle.
Elle est dans une position délicate.
Oui, il faut qu'elle sauve cette balle. Non. Ouais. Oh, elle est bonne, elle a de la chance. Mira Andreeva arrête le jeu. Elle est convaincue que là, elle montre la trace. Arnaud Gabas qui descend de sa chaise. Est-ce qu'il va confirmer l'impact faute? Elle est faute. Donc je break. 6-3-2-0, Christophe.
Ouais. Elle menait 3-2 en Andreeva ou elle était menée 3-2?
Je crois qu'elle menait 3-2. Non, c'est Radinska qui menait 3-2.
Bon, ça, elle est en train de.
Elle est en train de
lui faire une sabalenka.
Faut lui jeter une bouée de sauvetage, là.
Ouais. Allez, une petite bouée et ça va repartir. On revient vers vous dans un instant. 6-3-2-0 pour l'instant, donc, pour Mira Andreeva. Tiens, nous repartons en Principauté de Monaco parce qu'il y a Jean-Luc Roy, évidemment, mais lui, il est avec les princes ou avec les stars de cinéma. Et puis, dans le garage, à côté des pneus, et ça sent l'essence, on a notre ami Nicolas Paul Orsi qui, lui, évidemment, est là. Là où ça sent la Formule 1, ça. Hein, mon Nico?
Ça va très bien, j'aimerais bien être dans le garage. Malheureusement, j'ai pas accès à la pit lane, à la ligne droite des stands, mais je peux te dire qu'en tout cas, on est dans le paddock et que avant que cette première séance de Q1 reprenne, là, suite à l'incident de Bortoleto, je voulais quand même vous raconter ce que j'ai vu un peu avant cette séance de qualification. Les pilotes qui passent devant nous avant de rejoindre leur stand et de monter dans la voiture, il y avait une concentration sur certains visages, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Antonelli. Tu sens que c'est vraiment là que tout se joue. joue à Monaco, la séance de qualification. Et en plus, cette gestion du trafic avec 22 voitures là sur la Q1, je sais pas, j'avais la sensation qu'il y avait une tension particulière vraiment avant cette séance de Q1. C'était pas la même chose que les années précédentes et que pour n'importe quelle séance de qualification. Ça va bien repartir là pour la fin de cette Q1, Christophe.
D'accord, moi je pensais que t'étais avec Kim Kardashian, hein, du tout. T'es dans le garage, quoi. Tu surveilles ce qui se passe.
Écoute, je t'enverrai, j'ai fait une photo avec elle. Je te l'enverrai en privé, mais je vais pas tout dire.
Ouais, ben non. Et pendant ce temps-là, tu sais que Sarah a fait des photos avec Brad Pitt quand même. Hein, donc
c'est bien joué. Non, mais Kim Kardashian est passée à côté de moi, figure-toi, tout à l'heure, et je l'ai pas reconnue.
Il y a eu un regard échangé, non? Même pas?
Ah bah non, c'est-à-dire que moi, pour moi, c'était une personne normale. Hein, donc,
elle doit être vexée quand même, hein, franchement, c'est pas sympa. Bon, à tout à l'heure, Nico. Les dernières secondes de cette Q1 avec toi, Jean-Luc.
Et oui, mon Chris, on va attendre quelques secondes justement que le tour soit terminé. Comme prévu, donc on a relancé les pilotes pour un peu plus de 2 minutes. Ça leur a laissé le temps de faire un tour pour mettre les pneus en température et d'essayer de faire mieux. Alors pour le moment, resterez sur le carreau, puisque tu le sais, l'enjeu de la Q1 avant tout, hein, c'est de passer la barre, d'être dans les 16 plus rapides. Le dernier qualifié pour le moment, eh bien, c'est Esteban Ocon. Donc ça passerait pour le pilote français, mais celui qui resterait sur le carreau, et c'est Pérez. Pérez, malheureusement, avec la Cadillac. Pérez, on rappelle quand même qu'il était vainqueur, hein, de ce Grand Prix de Monaco en 2022, il n'y a pas si longtemps que ça. Il était parti 3e sur la grille. Et bien, a priori, Sergio Pérez avec la Cadillac restera là. La surprise, c'est Oliver Berman. Alors voilà, il vient d'améliorer à l'instant, mais ça ne suffira pas. Oliver Berman qui va terminer 18e de cette Q1. Carlos Sainz aussi reste sur le carreau. Grosse déception pour le pilote espagnol de Williams. Et puis Valtteri Bottas, alors là, on s'y attend, parce qu'il faut bien dire qu'il n'est pas du tout dans le coup pour le moment, lui aussi avec sa Cadillac. Et puis les deux Aston Martin, malheureusement, le chemin de croix se poursuit pour Fernando Alonso, quand même double champion du monde de Formule 1, tu le sais bien, mon Chris, et puis surtout double vainqueur également du Grand Prix de Monaco. Et pour Lance Stroll, ça c'est plus habituel. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, eh bien devant, ça n'a pas bougé, mais c'est anecdotique, Leclerc est le plus rapide, devant Verstappen, Antonelli, Norris, Hamilton, Hülkenberg et Piastri. C'est entre ces garçons-là qu'on va jouer la pole tout à l'heure.
Très bien. Franchement, Aston Martin, Cadillac, comme ça, ça claque. Hein, mais ça avance plus, ces voitures-là. C'est une catastrophe. Hein. C'est pas des voitures pour faire la course. C'est des voitures pour faire des films plutôt que pour faire la course. Pour faire des balades en Monaco.
C'est un peu dur. Tu sais, il y a eu un changement de réglementation drastique. Bon. Et c'est ce qui les a fait venir. Alors bon, c'est leur première saison, pas pour Audi. Parce que Audi, c'était Sauber avant. Hein, donc, il faut être honnête. Mais bon, ils étaient à peu près dans le coup. Aston, ils sont pas dans le coup. Et Cadillac, c'est une nouvelle équipe qui arrive. Donc il va falloir leur laisser un petit peu de temps. D'ailleurs, ils veulent surtout pas que le règlement change, disent-ils. Pourtant, avoir les résultats, on peut se demander quand même.
Ok, mon Jean-Luc, à tout à l'heure, on te suit, on te retrouve plus exactement pour la Q2 qui va débuter dans quelques instants. Jean Baumel, on n'arrête plus les Diables Rouges face à la Tunisie.
Ah bah écoute, là c'est parti. Hein. Et 2-3 pour les joueurs de Rudy Garcia, une superbe frappe de Kevin De Bruyne et qui est en grande forme, mais ça c'est important parce que c'est un joueur de grande classe, peut-être le 4e avec Lukaku qui vient d'entrer, ainsi que Hans Van Aken, le joueur de Bruges, et ça circule très bien dans l'attaque des Diables Rouges. À noter qu'il y a eu une expulsion côté de la Tunisie avec la sortie carton rouge de Garbi, donc c'est compliqué pour la Tunisie. 3-0 pour les Diables à 24 minutes de la fin du match.
À tout à l'heure, y aura-t-il une finale de Ligue des Champions de hand féminine entièrement française? Eh bien, on est sûr à 50% en tous les cas qu'il y aura une équipe française, puisque Metz, Kevin, vient de se qualifier aux dépens de Bucarest, les Messines qui disputent leur 4e Final Four et qui enfin sont en finale. Et de quelle manière face à Bucarest, hein?
Ouais, la 5e a été la bonne pour ces Dragons de Metz, qualifiés donc en finale après cette demi maîtrisée, en tout cas après un premier quart d'heure tendu. Voilà, elles ont maîtrisé tout le reste du match et elles ont creusé un écart conséquent en seconde période, 32-27 pour le score final en faveur donc de ces Lorraines d'Emmanuel Mayonnat, qui est sur le banc de cette équipe depuis une décennie et qui donc a amené cette équipe pour la 5e fois dans ce Final Four et qui enfin va connaître une finale avec l'espoir pour le handball français féminin d'en remporter peut-être demain une première Ligue des Champions. Ça n'a jamais été fait par les femmes en handball, une Ligue des Champions, une Coupe d'Europe. On espère que Budapest va continuer, je vous le disais tout à l'heure, à porter chance au club français. En tout cas, Metz donc sera en finale demain, peut-être contre Brest ou contre Győr, les Hongroises qui sont quand même favorites en étant notamment double tenante du titre, un mastodonte du handball féminin européen, Győr. Mais donc ce sera en tout cas au moins pour Metz demain en finale, demain après-midi, ici à Budapest.
Merci beaucoup Kevin. Effectivement, Győr qui sera un favori tout à l'heure face à cette équipe de Brest, elles sont tenantes du titre et en plus elles jouent à domicile avec une grosse ambiance dans la salle de Budapest. Ce sera tout à l'heure à 18h, on te retrouvera tout à l'heure. Le tennis, nous retournons à Roland-Garros où Khalinska vit des moments difficiles. Le conte de fées s'est prolongé pendant quasiment 3 semaines, mais là il est tout proche de la fin, Eric Salio, tout proche de se terminer, et non pas en happy end pour Khalinska opposé à Andreeva qui pour l'instant ne fait pas le poids.
Oui, le score est sévère, hein. 6-3, 3-0 pour Mira Andreeva, 8e mondiale, qui joue son classement cet après-midi sur le central Philippe Chatrier. Et malgré son courage, malgré son sens tactique, Maya Khalinska est en train de couler tout doucement parce que en face, elle lui laisse aucune opportunité. Hein. Il y avait un espoir il y a quelques secondes, Sarah, puisqu'elle a eu des balles des breaks, mais elle a serré le jeu, Mira.
Et oui, absolument. Elle menait 0-40 sur le service d'Andreeva et elle a réussi à aligner les points consécutivement pour sauver son jeu de service. Et c'est sûr que là, on est à 9 jeux consécutifs.
Non, 7.
7 ? Ah oui. Oui, 7,
4 plus 3, 7.
Ouais. Oui, 7 jeux consécutifs pour Andreeva.
J'ai été très forte en maths, Sarah. Pas son truc.
Oui, c'est sûr que 4 plus 4, je suis arrivée à 16 de temps en temps. Mais cependant...
On l'a déstabilisé. On l'a complètement déstabilisé. Sarah, reprends. Reprends dessus. Le mental.
Oui, exactement. Ce que je veux dire, c'est que je suis très impressionnée par la réponse tactique d'Andreeva à la problématique Khalinska. Et encore une fois, je le répète, ça a été préparé avec minutie et Conchita Martinez et véritablement on voit une jeune demoiselle de 19 ans qui a pris beaucoup de maturité, qui a su rester vraiment dans sa bulle de ce match, et je vois pas comment elle va en sortir pour l'instant parce que elle a plus d'armes, Khalinska, malheureusement, et il va falloir qu'elle repasse par de longs rallyes pour tenter d'essayer d'inverser la tendance. Mais elle a trouvé le filon, Andreeva. Les 9 autres adversaires se sont pris les pieds dans le tapis, mais là Andreeva, en plus de ça, maintenant a pris confiance, donc elle se permet des accélérations qu'elle n'avait pas encore dans la première manche. Ça semble inexorable et c'est un petit peu la logique, hein, même si on a cru à la magie jusqu'au bout. La logique semble faire son choix et ça se voit souvent lors des finales.
6-3, 3-0, 40-0 et là, il y a un joli symbole, Sarah. 0-40, pardon. Il y a un joli symbole puisque c'est Conchita Martinez a perdu une finale ici.
Oui.
En 2000.
Oui.
Contre Marie Pierce.
Oui.
Et c'est Marie Pierce qui va remettre le trophée, Christophe.
Oh, ça va lui
donc je pense qu'il y aura un petit goût de revanche pour Conchita Martinez parce qu'elle a, bon, elle a gagné Wimbledon, hein, elle a gagné un chelem déjà, mais elle aurait adoré gagner Roland parce que c'était une super terrienne. Qui jouait un peu, d'ailleurs, je trouve, dans le même registre que Khalinska, avec des grosses balles bombées. Oui. Bon, elle était droitière. Hein.
Oui, mais elle
ça fait 4-0,
plus de
là.
Choses, Khalinska. Hein.
Oui, oui. Mais je pense que Marie Pierce, je ne sais pas si Conchita descendra sur le central pour... en général, les coachs descendent maintenant. Hein. Oui. Et je pense qu'il y aura une belle accolade.
Si je peux me permettre une chronique mode, vaut mieux pas qu'elle descende. Hein.
Ah oui, son s'est pas mis sur très, très moche. Hein.
Oui, elle s'est pas mise sur son 31, si je peux me permettre.
S'il vous plaît, monsieur.
Mais non, mais Eric.
Non,
toi,
mais un peu d'élégance quand même.
Tu es quand même le roi de l'élégance avec ton short que tu changes tous les jours à Roland-Garros. Franchement,
non, il est en pantalon vert.
Ce survêt dégueulasse, quoi.
Oh, enfin.
Son moscato, presque.
Attendez, je suis en train de
regarder. Les joueurs, les coachs de foot, ils sont en survêt aussi.
Non, pas tout. Ah, c'est fini, ça. C'est fini. Non, ils sont classe, ils ont la cravate.
Allez, 3-4-0.
Ok. Allez, on revient vers vous dans un instant, peut-être pour vivre la fin de cette finale. Donc, 6-3-4-0 pour Andreeva, la russe, face à Khalinska, la polonaise, qui vit la fin de son conte de fées à Roland-Garros. À tout de suite.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessier.
Nous, on vient de rater un match, Andréva, qui était tout fait. Même moi, j'aurais pu le mettre, Eric, Sarah.
Mais... Pas sûr. pas sûr. Avec le vent, j'ai des doutes quand même, Christophe. Est-ce que tu l'as travaillé, ce match-là?
Voilà, on vous rappelle que vous êtes dans l'Intégral Sport. On est en direct de Roland Garros avec Eric Salio et Sarah Pignowski. En direct de Monaco et des qualifs du Grand Prix avec Jean-Luc Roy et Nicolas Paolorsi. En direct de Budapest avec Kevin Morand avec la qualification de Metz pour la finale du Final Four de hand féminin. Et en direct de Bruxelles avec Jean Baumel pour le match amical entre la Belgique et la Tunisie. Les Belges mènent 3-0. Oui, on se rapproche, Sarah, Eric, de la fin de cette finale. On pensait que ça allait être disputé avec un premier set très équilibré, 3 partout, et puis tout s'est déréglé. Et Andréva, depuis, déroule et enchaîne jeu sur jeu. Elle ouais. n'est plus qu'à un jeu de la victoire.
Ouais, 6-3, 5-0, là, il n'y a plus aucun suspense et on va encore avoir, malheureusement, une finale ultra rapide. Hein, oui. C'est une sorte de tradition ici à Roland, hein, c'est ce que je disais. Depuis 2003, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 qui se sont déroulés en 2-7 seulement. Bon. C'est un peu frustrant, mais quand il y en a une qui est au-dessus, il y a. Voilà, et puis c'est vrai qu'elle arrive non, en arrive au bout de ligne.
Il ne faut pas que ça fasse un 6-0, parce que là, ce serait pas récompensé.
Ah bah écoute, le... Oui, tu as raison, parce que
le 6-0, le dernier 6-0 de c'était. Justine Hénin contre Kim Clijsters, voilà. Sa compatriote, c'était en 2003. Donc, ouais. Quand même.
Alors c'est bien les surprises, mais là, on réalise quand même qu'il y a une limite aux surprises et que face à une numéro combien? Les numéro 8 mondiale, Andréva?
Exactement. Est-ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'est la première fois du tournoi qu'elle.
De sa carrière, qu'elle
est opposée à une
top 10.
Une top 10.
Donc tu vois, c'est tout.
Ah oui, parce que son parcours.
Il y a l'enjeu de la finale parcours, et il y a la qualité de l'adversaire aussi.
Ouais, sans affronter quand même les cadors du circuit pour Hralinska. Elle est passée, mais chaque fois face à des adversaires qu'elle pouvait taper, là, évidemment, un top 10, c'est autre chose. Hein.
Ah bah, complètement.
Oui, la vitesse de jeu, la qualité de frappe, et puis même la concentration et la réponse à son tennis sont différentes.
Dis donc, Loïs Boisson avait battu Andréva, me semble-t-il, l'année dernière, non?
Oui,
en quart de finale. Quart,
mais là, Andréva qui avait pardon. Qui avait explosé comme un pop-corn. Elle avait explosé comme un pop-corn face au jeu et ses balles liftées de Loïs Boisson. Ouais. Mais peut-être qu'elle a tiré des leçons. Hein.
Ah bah en un an, elle a progressé parce que. Bon, c'est vrai que le stade était pro-Loïs il y a un an. C'était en indoor, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait une drôle d'atmosphère pour elle et elle n'avait pas supporté. Là, c'est vrai que le stade est plutôt pro-polonais, mais c'est pas flagrant, quoi. C'est
pas une Française qui joue, oui, c'est sûr, c'est pas
du tout. Allez, 6-3-5-0, mais Hralinska mène 30-0 sur sa mise en jeu, va peut-être sauver un jeu et surtout stopper l'hémorragie, puisqu'elle a mené 3 jeux à 2 il y a environ, 45 minutes peut-être. Et c'est vrai que depuis, elle n'a pas pu grignoter le moindre jeu, parce qu'Andréva a haussé le niveau et qu'elle, elle n'a pas pu suivre. Alors il y a la fatigue, bien sûr, de ce parcours inouï, mais aussi, parce qu'en face, elle joue top 10. Et pour l'instant, l'année est encore loin, Hralinska, du top 10, même si elle sera 21 mondial lundi. 40-0. Allez, elle va sauver un jeu, je pense. Elle aura une belle ovation, on va l'entendre. Mais elle ne méritait pas prendre une bulle, hein, c'est mérité.
Non, c'est vrai. Et pour revenir à des chiffres qui parlent dans cette deuxième manche, hein, il n'y a eu que 11 petits points remportés pour Hralinska contre 22 beaucoup, du côté d'Andréva. Et ça s'inverse aussi dans les fautes directes, puisqu'il n'y en a eu que 9 du côté d'Andréva. Il s'est monté à 14 pour Hralinska.
Oh là là, elle boise encore un coup droit.
C'est pas la première fois, elle a boisé quelques coups droits comme ça, des moments importants en fin de première manche. Le vent est pour quelque chose, mais je pense que son petit jeu de jambes s'ajuste un petit peu moins bien, forcément. La fatigue,
mais aussi elle y croit plus là. Donc
oui, je pense qu'elle y. Oui, forcément. En tout cas, elle n'a pas été prise par l'événement en début de match, hein, ce qu'on aurait pu croire.
Non. Allez, 45. Faut marquer ce point, Maya. Pour sortir la.
J'allais dire une grosse première, elle a servi à 140 km/h. La tête haute. Grosse première, c'est dur.
Mais là, elle est encore en difficulté, puis on sent que ça tire.
Et Andréva est à l'intérieur.
Des jambes, là, elle est quand même en grande difficulté, en gros retard. Ça sort 40-30. Attention, elle veut finir tout de suite, Mira Andréva, hein, parce qu'elle a d'expérience. On ne sait jamais, il peut se passer plein de choses. On l'a vu avec Yannick Sinner, hein, chez les garçons. On l'a vu aussi avec
Zabalenka, oui.
Même si c'était
pas aussi flagrant. Elle menait déjà 0-40, hein, sur le service d'Andréva et elle a pris.
Ouais. Allez.
Elle a pris les 5 points consécutifs.
Il faut faire ce point, donc elle sert côté gauche, 1h12 à la pendule. C'est vrai que c'est court, mais bon, là, quand il y en a une qui est au-dessus, elle est au-dessus, il n'y a rien à dire. Elle monte au filet. Est-ce qu'elle va conclure ou ça va revenir encore?
Revient encore.
Allez, un petit l'instant, ça sort. Voilà, je Raliska.
Elle a sauvé.
Belle ovation du public. 6-3-5-1. Maintenant, c'est le moment de vérité pour Mira Andreeva. Elle va servir pour aller chercher son premier majeur à 19 ans.
Alors, première finale aussi.
Première finale
pour Andreeva.
D'un grand chelem.
Première finale de grand chelem.
Oui, mais pour son premier majeur.
Bah oui.
Ouais. Bah, elle aurait pu déjà faire une finale sans gagner son premier majeur.
Avec Eric, pour son premier titre.
T'es pas précis, Eric. T'es pas précis.
Où est-ce que je suis pas précis?
Elle
pour son premier majeur.
Oui, son premier majeur, mais en finale aussi.
Bah, pour faire pour un majeur, il faut arriver en finale, Sarah. Ça me paraît logique, non?
C'est sa première finale aussi de grand chelem.
Merci. Allez, on va voir si elle va tenir ses nerfs, parce que là, c'est un moment important. T'as des petits papillons dans le ventre, Sarah. T'as connu ça, non? Pas en majeur,
non,
mais...
finale de grand chelem, non. Enfin, je m'en souviendrai, mais je crois pas.
Voilà, sa première des grandes gueules du sport, c'était un peu ça, quand même.
Ah oui, oui, c'était
tétanisé par l'enjeu.
Absolument.
Allez, 3 points encore, Sarah. Ouais. 3 points. On va surveiller aussi l'attitude de Conchita Martinez, parce que c'est pas toujours facile de coacher une fille comme Mira Andreeva.
Ouais, une fille tout court.
Il y a parfois des clashs. On se souvient.
Une joueuse, il faut faire preuve de patience. Non, il faut faire preuve de patience.
Kaza,
et de subtilité pour coacher les meilleures joueuses mondiales.
Ouais,
parle-en aux différents coachs de Sabalenka, ils en prennent plein la figure aussi. Hein.
Voilà, il a du bon de cher son coach la dernière fois quand elle a pas trouvé de solution la semaine dernière, cette semaine.
Mais franchement, quand on revoit sa défaite à Indian Wells où elle quitte le court en insultant les spectateurs, et que moi je me suis dit ça va pas durer longtemps avec Conchita Martinez, parce que c'est parfois ingérable ce genre de surdouée, parce que c'est une surdouée Andreeva, hein, quand elle est apparue sur le circuit, quand elle claque des résultats alors qu'elle a encore que 16 ans, tu te dis celle-là elle va en gagner des majeurs. Mais la route a été tortueuse, mais là elle va connaître l'ivresse probablement donc d'une première victoire en chelem sur la terre battue parisienne, donc ce pays qu'il a un peu adopté puisque elle a été formée, si je puis dire, par Jean-René Lisnard à l'Académie de Cannes. Attention, l'enchaînement Amortilhomme ne marche plus, Sarah. 30-15.
Elle le sent venir, Andreeva, donc elle part avant. Et tout de suite, dès qu'elle a remis long cet amorti, bien, elle se recule parce qu'elle sait que le lob va arriver.
2 points, à 2 points du sacre. À 2 points sûrement de larmes de joie, parce que c'est son rêve de jeune fille. Elle était programmée pour gagner des grands titres, des grands chelems, et bien là, elle va pouvoir le vivre pleinement, puisque c'est... Non, 30 ans. C'est comme quand
tu fais la
Coupe du Monde, quand tu mènes 4-2, qu'il reste 5 minutes à jouer, t'as le temps de savourer. Ben là, on est dans ce cas, hein. 6-3-5-1, 30 ans, 1h16 à la pendule. En principe, il peut rien lui arriver, Sarah. En principe.
Oui, en principe.
Mais bon.
Les derniers points, il faut les faire. Il ne faut pas les attendre. Il faut aller les chercher.
Bonne première. Elle appuie avec un coup droit.
Oui.
Raniska est là.
Elle est à l'intérieur du cours, Andreeva.
Ouais, elle trouve la lucarne encore, elle s'ouvre le cours, loin. 30-40.
Le coup droit
la nervosité est là, Sarah.
Mais oui, ça tremble un petit peu, c'est normal, c'est humain, c'est rien de grave, il faut qu'elle se reconcentre. C'est normal. Mais non, il n'y a rien de grave.
5-3, 5-4, ça peut aller vite, ça. Hein.
Elle veut essayer de terminer, elle appuie un peu plus. C'est normal, c'est humain.
Imagine le remake de Sabalenka, ça serait fabuleux. Attention. Elle monte au filet, elle dépose... Non, ça sort dans le couloir. 40 ans. Donc elle revient à 2 points du match, Sarah.
Tout son plan est debout. Il y a Conchita Martinez qui a les...
Qui la conseille,
oui. Oui, qui a mis les mains sur la bouche et qui est en train de lui crier des choses pour la garder bien dans le match. Il faut savoir que les player box, elles sont très hautes. Donc quand tu veux parler à ton joueur, tu es obligé d'hurler. Comme le coaching est autorisé maintenant.
Attention, est-ce qu'il y a une balle de match au bout de cet échange? Raliska qui essaie d'appuyer. Non, faute en coup droit de Mira Andreeva qui se crispe pas.
Oui. Allez, une autre occasion pour refaire et tourner à 5-2 pour Raliska. Moi, j'ai envie que ça dure un petit peu.
Oui,
parce que
bien
ça
ne
méritait pas un 6-3-6-0, c'est certain.
1h17, c'est vrai que c'est court comme finale. Oh là là, elle part à la faute, là, Andreeva.
Deux grosses fautes de coup droit.
5-2.
Et ben voilà, tout est relancé. Les mouches ont changé d'âne, comme dirait l'autre. Allez, on revient vers vous dans un instant. Il y a peut-être du suspense, le suspense relancé dans cette finale de Roland-Garros. Dame, les mouches n'ont pas changé d'âne à Monaco, où ce sont toujours les meilleurs, et notamment Antonelli, qui pour l'instant fait la course en tête dans la Q2, Jean-Luc.
Oui, absolument. Devant Leclerc, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, Hadjar et Russell pour prendre les gros bras. Et puis, a priori, dans le top 10, on aurait Lawson et Hülkenberg pour le moment. Ça veut dire aussi la mauvaise nouvelle dans les toutes dernières secondes de la Q1, il faut y revenir, c'est qu'Esteban Ocon, qui était 16e, il était sur le fil, sur la goutte, et bien il n'est pas passé.
On l'a pas vu venir, ça.
Et non, on l'a pas vu venir du tout. C'était vraiment à deux secondes près. Et malheureusement pour lui, Sainz a amélioré. Sainz qui est actuellement 12e avec sa Williams. Donc, pour le moment, resterait sur le carreau à un peu plus de 2 minutes du terme de cette Q2. Hülkenberg, Sainz, Colapinto, Albon et Lindblad a confirmé. Et cette fois, on va bien attendre que tout le monde ait terminé son tour pour annoncer ceux qui ne seront pas dans la bagarre pour la pole. La bataille formidable dans les rues de Monaco, mon Chris. Hein.
Ouais, alors la bataille, Antonelli, tout à l'heure, dans la troisième séance d'essai libre, a montré de quel bois se chauffer en réalisant le meilleur temps. Il est le favori pour signer une quatrième pole cette saison, Jean-Luc.
Alors le favori, non, je resterai sur Charles Leclerc qui est à 70 millièmes. Voilà, il n'est pas loin. Et puis il va nous sortir un tour de folie, hein. Comme il le disait lorsqu'il est venu à Monaco pour la première fois en Formule 1, il a dit: je connais le nom de toutes les fourmis qui traversent les routes. J'allais à l'école petit, là je marchais sur les trottoirs, j'arpentais mètre par mètre ce tracé. Donc je pense que Charles va nous sortir un tour de folie pour essayer de décrocher la quatrième pole ici à Monaco, et pourquoi pas une deuxième victoire. Mais bon, ça, on va pas anticiper, hein. Il y a Verstappen aussi, tiens, qui signe actuellement là la meilleure Q1 pour le moment. Verstappen qui est troisième à 136 millièmes d'Antonelli. Ah, je peux dire que ça va être une bataille entre ces trois ou quatre là, ça va être fabuleux.
On va se régaler évidemment dans cette Q3 tout à l'heure. On revient vers toi pour la confirmation de ceux qui ne participeront pas donc à cette Q3 dans quelques instants. Retour à Roland-Garros. Est-ce que le suspense est relancé? Andreeva mène 6 jeux à 3. Elle avait vraiment toutes les cartes en main dans cette deuxième manche, mais elle vient de perdre deux jeux d'affilée. Est-ce que Khalinska a repris confiance en elle? Eric Sarah.
6-3-5-2, mais Khalinska est au service. Il y a 0-15. Et surtout, Mira Andreeva joue face au vent. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est beaucoup plus facile de jouer face au vent. Ça n'explique pas peut-être les deux jeux de service perdus où elle était vent dans le dos. Il y avait aussi la nervosité de servir pour le gain du plus grand titre de sa carrière. 0-30. Ah oui, superbe accélération de revers, long de ligne
de coup droit, après ce court croisé délicatement posé d'Andreeva. 0-30. Alors, elle a perdu deux jeux, mais elle n'a pas eu de balle de match, hein, Andreeva, pour l'instant. Khalinska au service, Mira Andreeva 6-3-5-2, 0-30.
Beaucoup, Sarah, le vent souffle beaucoup, là. Par c'est Bourras, très perturbant. Là. Ah, elle arrête parce que c'est impossible de lancer la balle tellement ça souffle.
La terre battue vole.
Allez, 0-30. Deux points du match donc pour Mira Andreeva. Je pense que là c'est le dernier jeu, Sarah. Je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir, la polonaise là, avec le vent dans le dos.
C'est pas avec des grosses premières, hein, ouais, malheureusement.
Ça passe pas. Première balle qui va dans le filet.
Ce premier service est délicat.
Oh là là, ça souffle, c'est terrible.
Oh, je sais même pas comment elle va réussir à mettre la seconde dans le coup, tellement ça souffle.
Déjà,
là,
faut qu'elle la lance. Ouais. Oui, pourquoi pas.
Mais ouais, c'est aussi dur, hein, la cuillère.
La cuillère, faut le maîtriser, ça. Ah ouais. Hein. Attention. Oh là là, ça prend la ligne. Elle a beaucoup de réussite, là. Et Andreeva, elle peut frapper sans problème. Ah, 0-40. Elle a pris une bourrasque. Mauvais placement, 0-40. Balle de match.
Trois balles de match qui s'offrent à Mira Andreeva,
qui se tourne, qui fait, veut pas prendre de l'ocre, de la poussière dans les yeux. Elle se tourne parce que ça, c'est vraiment très gênant là actuellement.
À 19 ans, c'est déjà son 13e.
Ah, c'est un vrai débat, ça, Christophe.
Mais il peut-être qu'il marche encore pas, leur toit, non?
Si, il fonctionne.
Si, il marche.
C'est sa quatrième apparition à Roland-Garros, Mira Andreeva. 19 ans, elle a déjà été demi-finaliste en 2024.
C'est parti, c'est
l'année dernière, elle a perdu contre Louise Boisson en quart de finale.
Attention, elle va appuyer avec son coup droit. Elle défend comme elle peut.
Elle vient au filet.
Ouais, là, c'est fini, là. C'est fini. Et voilà, les taches doux. Mira Andreeva remporte son premier majeur, son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros. Magnifique victoire, bien construite face à la révélation de ce tournoi qui n'a rien pu faire aujourd'hui. 6-3, 6-2. C'est sévère, mais ça reflète la supériorité de la joueuse russe qui était formée en France à l'Académie de Cannes et qui donc savoure ce
grand titre mérité, parcours magnifique durant toute cette quinzaine, il n'y a rien à dire, mais on n'oubliera pas.
On n'oubliera pas Maya. On n'oubliera pas Maya, on n'oubliera pas l'épopée de cette Polonaise de 24 ans qui sortait des qualifications 114e mondiale, qui va maintenant rentrer dans le monde des grandes, puisqu'elle sera 21 lundi. Donc
elle va peut-être avoir
jours.
Un vrai sponsor, elle pourra réserver sa chambre d'hôtel.
Emira qui court, elle va rejoindre tout son clan. Voilà, elle disparaît du cours, elle va monter le petit escalier parce que contrairement aux autres grands chelems, on ne peut pas accéder à la, au box des joueurs. Il devrait installer une échelle, je ne sais pas. Mais là,
un escalier, oui,
ça
raison,
cache le plaisir, on ne voit pas ce qui se passe là.
Voilà, quand tout même. De suite, il s'énerve. Rémi et
Michel Zayand, tu sais, ça aurait été bien.
Ça y est, on a les images. Elle va tomber dans les bras de Conchita, ça y est. Conchita qui n'a jamais pu gagner Roland, bien le gagne par procuration 26 ans après. C'est beau.
Vous savez à quoi elles jouent toutes les deux avant les matchs? Parce que moi je les ai vues.
À la belote?
Non, au Super Uno.
Ah.
Ouais, je les ai vus se bien batailler au Super Uno avant les matchs.
Ça triche, tu me confirmes?
C'est possible. Bah, j'ai pas regardé, je suis pas allé mettre le nez sur le jeu, mais je les ai vus jouer à ça avant les matchs.
19 ans, quel savour.
Oui, 19 ans, elle fait partie des plus jeunes qui ont gagné Roland Garros. Il y a Iga Świątek qui avait 19 ans et 132 jours. Alors que Mira Andreeva a 19 ans et 39 jours. Mais Eric, tu dois le savoir, qui est la plus jeune à avoir remporté Roland Garros?
C'est Ingis?
Ah non.
Non.
Ah non. Ingis n'a pas gagné.
Ça pleure dans le clan.
C'est Monica Seles qui a remporté en 90 à l'âge de 16 ans.
Tu me donnes le point ou non?
Accordé.
Non, je te donne pas le point. T'as pas gagné sur les jeux là.
J'ai gagné ce matin, j'ai mis une rousse à tout le monde, je te signale.
C'est vrai?
Ouais.
Ah bah quand Benetto est pas là, tu gagnes.
Mais c'est pour ça que t'es de bonne humeur. C'est pour ça. Voilà, en tout cas, c'est une belle vainqueur. Elle a son petit chien. Ça, c'est l'image de ce tournoi de Roland Garros.
Comment il s'appelle ce chien, Eric?
Je ne sais pas comment il s'appelle.
Le chien de Kaliskaya, c'est Bella, mais là, j'avoue que je sèche. Ouais.
Bon. Il a un petit teckel aussi, Zverev. Peut-être qu'il prendra son teckel dans les bras hein, demain, après la victoire, s'il gagne.
Ouais.
C'est la quinzaine.
Et encore, nouvelle accolade avec Conchita Martinez, à qui elle doit beaucoup, parce que c'est une très, très grande coach.
Mais franchement, ce survêt, c'est pas possible, Conchita.
Non, ça va pas.
Non, mais en plus, il fait chaud. Non, il fait pas si chaud que ça.
Et la petite Ralinska, elle bouge pas. Elle est figée sur sa chaise. Elle n'a même pas un regard vers son clan.
Sarah, il y a la défaite et la déception de la défaite en finale. Mais malgré tout, quelle quinzaine incroyable. L'histoire est fantastique pour cette jeune Polonaise qui vraiment était arrivée ici en qualif et qui, au bout de quasiment trois semaines de compétition, finit en finale. Elle va prendre des points donc et monter au classement ATP. Je crois que vous disiez WTA, 21e.
Oui.
WTA, pardon. Et en plus, elle prend un chèque énorme quand même. Parce que les qualifs plus aller jusqu'en finale à Roland-Garros, ça vous change la vie, ça. Hein.
Oui, c'est 1,4 million, puisque la vainqueur est à 2,8 millions. C'est une sacrée somme. Alors, on pourrait dire on parle que d'argent. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que derrière les 100, eh bien, elle doit faire des choix sur ses tournois. Elle ne peut pas partir peut-être avec toute l'équipe qu'elle voudrait. Elle va pouvoir améliorer son entraînement. Elle va pouvoir améliorer son staff. Évidemment, il y a en plus de ça, des sponsors. Elle est suivie par une agence de marketing qui est basée en France. Donc, elle va pouvoir utiliser son image. Tout ça fait que elle va pouvoir envisager d'autres choses dans sa carrière, donc c'est pas juste une histoire d'argent, c'est aussi faut savoir que les joueurs investissent beaucoup dans leur carrière, et le fait que le prize money est je sais même pas multiplié par 100 par rapport au temps où je jouais.
Tu es né bien trop tôt, ça.
Et c'est ce que je me suis toujours dit.
Grâce à cela, tu as quand même une villa sur mer à La Baule, quand même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les joueurs investissent beaucoup dans leur carrière, et le fait que ce prize money est augmenté et qu'il soit égal chez les hommes et chez les femmes permet aussi à ces athlètes, eh bien, d'être en meilleure forme physique, de pouvoir tenir des saisons entières et de pouvoir investir dans sa progression. Donc, félicitations à Ralinska. Attention, dans le tennis féminin, le plus dur, c'est de confirmer.
Très bien, on vous retrouve dans quelques instants pour la remise des prix, la coupe
de la coupe Suzanne Lenglen.
Suzanne Lenglen, exactement, pour Mira Andreeva, 19 ans, qui remporte donc son premier majeur. On file à Monaco, on attend évidemment la Q3 qui va débuter dans quelques instants. Les enseignements, Jean-Luc, de la Q2, qui est sorti, qui est resté?
Eh bien, on avait perdu malheureusement Esteban Ocon sur la bulle au dernier moment tout à l'heure en Q1. Là, on a perdu Bortoleto, mais ça, on le savait puisque, tu sais, il avait cassé sa suspension avant gauche dans la chicane du port. Lindblad l'a rejoint, de même que Colapinto, Hülkenberg, Sainz et Albon. Ça veut dire qu'on va retrouver maintenant le top 10, la bataille pour la pole, avec Norris, Piastri, Verstappen, Antonelli, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Russell, Lawson et Gasly.
Bon, c'est pas mal, et la grande bagarre va débuter dans quelques instants, et on va la vivre dans ses grandes largeurs avec toi, Jean-Luc. Pendant ce temps-là, Nico Paolo Orsi vient de recueillir les impressions d'Esteban Ocon, je crois.
Oui, on est toujours dans la zone média. Vous savez qu'en Formule 1, quand les pilotes sont éliminés très rapidement, ils passent devant les médias. Et Esteban Ocon est venu en anglais face à la presse. Il n'y avait pas beaucoup de Français pour recueillir ses impressions. Dégoûté, Esteban Ocon, parce qu'il nous disait qu'il avait vraiment la voiture pour essayer de pousser en Q2, voire en Q3, et qu'il a été coupé dans son dernier tour alors qu'il avait le 11e chrono intermédiaire, au deuxième temps intermédiaire, par le drapeau rouge de Bortoleto. Donc voilà, encore un manque de chance pour Ocon. C'est vrai que c'est pas la première fois depuis le début de saison, Jean-Luc, qu'on voit qu'Esteban Ocon n'a pas forcément tous les éléments qui s'alignent, et en plus de ça, il est régulièrement battu par son coéquipier Oliver Berman. Ça tourne pas comme il voudrait cette saison, Esteban Ocon. Donc voilà, content de sa voiture, mais dégoûté du scénario, piégé par le trafic et par ce drapeau rouge de Bortoleto.
Ouais, compliqué.
Bah oui, tout à fait, mon Nico, tu as raison de le souligner. Malheureusement, la dynamique n'est pas du tout en sa faveur. Bon, il faut bien reconnaître que Berman, c'est un sacré morceau, hein. On sait qu'il a beaucoup de talent, et on sait qu'il finira chez Ferrari évidemment dès que possible. Donc il a affaire à forte partie, il est tout jeune mais il est très très bon, et Esteban, bah oui, doit redresser la barre, et là il n'a pas été avantagé, mais à Monaco c'est souvent le cas.
Merci les garçons, on vous retrouve pour la Q3 dans quelques instants. Jean Baumel, les Aigles de Carthage ont perdu des plumes cet après-midi à Bruxelles. Hein.
Ah oui, ça fait mal. 5-0 finalement. Les buteurs, De Bruyne dans les ordres. Hein. Trossard, c'était le premier. Ainsi que De Ketelaer. Et ceux qui ont marqué en fin de match, les entrants. Parce qu'il a fait 8 changements, Rudy Garcia, le coach des Diables Rouges. Avec un but de Luque Bacchio et de Nicolas Raskin. La Belgique part avec plein de confiance parce qu'ils avaient gagné mardi en Croatie. Et là, ils partent aux États-Unis lundi devant la publicité. Qui leur dit bye bye et surtout aller très loin dans cette Coupe du Monde. Et on sent une attaque quand même assez intéressante, même si tu disais, Christophe, hein, ils ont pris cher les Tunisiens. Et là, on peut le dire, hein, franchement, très compliqué pour Sabri Lamouchi. Il faut rappeler que c'était aussi un coach français qui était à la tête de la sélection tunisienne. Là, ça va être plus compliqué parce qu'ils vont jouer quand même la Suède, les Pays-Bas et le Japon. S'ils arrivent à passer, ce serait déjà un miracle. 5-0 pour la Belgique. Plein de confiance avant d'aller aux États-Unis dès lundi.
Merci Jean, et tu auras l'occasion de comparer puisque demain soir tu vivras le match entre la France et l'Irlande du Nord. Lundi soir plus exactement, tu auras lieu à Lille. Les Français qui eux ont perdu, on vous le rappelle, face à la Côte d'Ivoire, et on attend un rachat de cette équipe de France. Il est 16h57, les festivités se préparent à Roland-Garros. La Q3, elle, a débuté à Monaco. On va suivre ces deux événements tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
17h03 sur RMC. On va vivre là dans quelques instants à la fois le discours de Mira Andreeva, puisque les festivités ont commencé après la finale dame à Roland-Garros, et on va également vivre la fin de la Q3. Un point tout d'abord sur la Q3 justement avec Jean-Luc Roy. Il reste à peu près 4 minutes dans cette Q3 pour aller chercher la pole, et pour l'instant c'est Antonelli qui a signé le meilleur temps.
Ah oui, il est fabuleux, hein. Il est absolument fabuleux, Kimi Antonelli, évidemment, qui a signé 4 pôles déjà cette saison, 4 pôles dans sa carrière, qui domine le championnat du monde, hein, 43 points d'avance pour le moment devant son équipier. Eh bien, il a relégué, tiens-toi bien, à 1/1 de seconde Verstappen, donc 1/1 d'écart avant le dernier assaut. Hamilton est 3e, Norris 4e, Russell 5e, Hadjar 6e, puis Piastri, Lawson, Gasly, et Charles Leclerc a commis une petite erreur dans le deuxième secteur de sa première tentative. Il va essayer essayer maintenant, pour la deuxième, de rattraper tout ça.
Ah oui, parce que tu nous as annoncé la pole pour Charles Leclerc, hein, Jean-Luc, donc il ne faut même pas non plus que...
Je maintiens.
Hein, tu restes sur ta ligne, tu ne bouges pas d'une oreille, hein, tu restes
les fourmis sont là, les fourmis sont là.
Très bien, on revient vers toi dans un instant, Charles Leclerc qui est parti dans son tour rapide. On va peut-être le faire avec toi, justement, le tour rapide de Charles Leclerc qui, tu le disais, connaît parfaitement tous les endroits de ce circuit, lui qui est monégasque, qui allait à l'école, qui partait de chez lui, qui allait à son école et qui y allait à pied. La meilleure manière, évidemment, de repérer un circuit de Formule 1. L'avantage avec Monaco, c'est qu'on connaît tous, enfin tous les amoureux de F1 en tout cas, on connaît tous les côtés de ce circuit, on sait où se trouvent les voitures, on connaît le nom des virages, le nom des lignes droites. C'est ça l'avantage avec Monaco, Eric, Jean-Luc.
Oui, c'est fabuleux, effectivement. Ce circuit est chargé d'histoire, hein. Tu l'évoquais, il est depuis 1950 et ils sont peu, dans ce cas-là, à figurer au championnat du monde de Formule 1 régulièrement parce que c'est une vitrine extraordinaire. Alors, il y a des débats chaque année sur le fait que, évidemment, la piste est étroite, elle est ancienne, elle est un peu dangereuse, même si la sécurité, heureusement, a progressé dans tous les domaines maintenant et puis qu'il est très difficile de dépasser. Mais on y parvient, c'est ce que j'évoquais toujours, hein. Si on prend les 22 derniers Grands Prix, eh bien, à 15 reprises, l'homme qui s'était lancé de la pole l'a emporté, mais ça veut donc dire qu'il y a quand même eu à 7 reprises un autre pilote. Donc, une fois sur 3, bah, finalement, si on prend les stats, il y a beaucoup de circuits où c'est le cas, hein. Donc, alors, il y avait des circonstances exceptionnelles, il a fallu la pluie. On rappelle quand même la victoire d'Olivier Panis il y a 30 ans, en 1996, à l'époque, avec Saligier qui s'était lancé 14e. Mais c'est vrai qu'il y avait eu la pluie. Et voilà, il va en terminer, Charles Leclerc, maintenant. Est-ce qu'il va s'imposer? Est-ce qu'il va parvenir à signer le meilleur temps, Charles Leclerc, dans les rues de Monaco? Oui, 1:12.351. Tu vois, mon cri, je ne vous l'avais pas survendu.
Tu pues la Formule 1, hein, tu pues la Formule 1, mon Jean-Luc, bravo. Encore trop fort. Leclerc, donc, pour l'instant, qui signe la pole. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont susceptibles de lui ravir cette pole position ou non?
Ah oui, attends, c'est pas terminé, parce que le temps officiellement est parti, il reste une minute maintenant, hein. Ça veut dire qu'on a largement le temps non seulement de terminer. Alors, je peux te dire que Norris, par exemple, est en amélioration perso dans le premier secteur. Lawson également, amélioration perso dans le premier secteur. Gasly également, et Verstappen à l'instant, qui établit le meilleur premier secteur, 18 secondes 827 millièmes. Il a fait mieux que Charles Leclerc tout à l'heure, qui était en 19 secondes et 42 millièmes. Donc il a pris carrément 2 dixièmes dans le premier secteur, rien n'est perdu. Je te dis, jusqu'au bout, ça va être une bagarre. Rends-toi compte, on a 3 pilotes en 25 millièmes de seconde. Leclerc devant Tonelli et Verstappen. Et je pense que les autres vont s'en mêler. Amélioration d'Hamilton également. Hamilton plus rapide dans le premier secteur. Russell également, jusqu'au bout. Il reste maintenant 17, 16, 15 secondes. Mais évidemment, on va terminer le tour. On va attendre que le tout dernier tour, puisque tu sais que cette piste s'améliore évidemment au fur et à mesure du passage des monoplaces. Verstappen, toujours le plus rapide dans le premier secteur, mais maintenant Hamilton, le plus rapide dans le deuxième secteur. Verstappen a réalisé 34 secondes 184 et Verstappen s'empare du meilleur temps maintenant, 1 minute 12 secondes et 94 millièmes. Il relègue Lewis Hamilton au deuxième rang à 185 millièmes. C'est pas terminé, parce que Leclerc a encore un tour à terminer. Il est en 19 secondes 986, il est pas loin. Ça se joue à quelques millièmes de seconde, cette pole dans les rues de Monaco. Pour le moment, on a Verstappen devant Hamilton, Leclerc, Antonelli, Adja, Russell, Piastri, Norris, Gasly et Lawson. Mais il y a beaucoup de vert, hein. Beaucoup de vert dans le premier secteur, dans le deuxième secteur. On va attendre que les pilotes aient terminé leur tour. Ça va être le cas d'Antonelli maintenant. Antonelli a mis... Oui, Antonelli arrache la pole à l'instant. 1 minute, 12 secondes et 51 millièmes. Il relègue Verstappen à 43 millièmes. Hamilton à 228 millièmes. Leclerc à 300 millièmes. Et Leclerc, malheureusement, n'améliorera pas, je dis malheureusement, qu'évidemment, j'aurais bien aimé qu'il signe la pole. Écoute, il l'a fait un moment, mais Antonelli, Verstappen et Hamilton ont fait mieux. C'est incroyable, hein, la Montcris, on a vécu vraiment des qualifs absolument historiques.
Bon, tu pues pas autant que ça, la Formule 1, hein, finalement, puisque notre ami Charles Leclerc, qui a tapé, me semble-t-il, d'ailleurs, dans son dernier tour, il a tapé côté droit, vers la chicane de la piscine, vers les S de la piscine, me semble-t-il. Tu nous confirmeras ça dans quelques instants, Charles Leclerc, qui ne partira qu'en deuxième ligne. Le discours de Mira Andreeva pendant ce temps-là à Roland Garros, la vainqueur.
Oui, c'est Mira qui remercie, qui félicite son...
Mais
Maya dit que c'était une tricky, donc une adversaire compliqué parce qu'elle a un style très particulier. Elle félicite aussi le clan de la jeune polonaise qui a semblé un peu assommé par l'émotion tout à l'heure. Sarah.
Oui, elle n'a pas bougé de sa chaise pendant toute la préparation de la cérémonie.
Elle remercie Mary parce qu'elle a battu sa coach. Justement, on en parlait tout à l'heure. Et Mary qui salue coach Uta Martinez.
Merci pour moi, Kéron.
Les conditions très cosy, très agréables. C'est vrai que pour le reste d'année en année, pour les joueurs notamment.
Big dream of mine to win this tournament, and
oui, c'est un grand rêve qui se réalise pour Mira.
Thank you so much for
elle a toujours rêvé de pouvoir remporter ce tournoi. On rappelle que cette demoiselle a quitté la Russie il y a 5 ans et qu'elle vit, qu'elle habite dans le sud de la France, qu'elle a été formée au Tennis Elite Center avec un entraîneur français, Jean-René Lisnard.
I know it's not easy to be on the court with such heat in the first week.
Et oui, elle rappelle que la première semaine était très très chaude.
Weather changes in the second week, so thank you so much for doing your best. Thank you so much for giving your 100% on the court, helping us.
Toujours à 100%. Et c'est vrai qu'il y a un match sur le bal de Roland.
So thank you so much for giving your best every time.
Bien sûr.
Ils ont la meilleure préparation, mais c'est vrai que. Et elle remercie aussi les juges de ligne. Ils se font rares, les juges de ligne. Et Roland Garros résiste.
Thanks to my team.
Elle remercie son équipe.
I can be a tough cookie sometimes.
Capricieuse.
Certain days. Comment elle a dit ça? Cookie.
Thank you very much for pushing me to my limits. Thank you for making me work even when I don't want to work. You always push me. Thanks to Conchita especially
for sharing
her experience, giving me so many advices.
De donner plein de conseils.
Alors ils ont tous enfilé. C'est génial maintenant. C'est comme le PSG. Ils ont tous enfilé le t-shirt avec la photo de Mira.
Tout est préparé
maintenant.
Elle a même changé de chaussures, Christophe. Elle a mis des chaussures noires.
Conchita?
Oui. Non, pas Conchita, Mira.
Mira, elle a les semelles qui brillent. Vous savez, comme les enfants, les semelles qui s'illuminent quand elles marchent.
For always supporting me and always believing in me. My dad is currently watching on TV,
qui pleure derrière ses lunettes de soleil.
Vous savez que Mira Andreeva a été licenciée au TC Bleu de Billancourt, comme Yelena Ostapenko.
Oui.
Il faut être licenciée au TCBB pour gagner Roland.
Et elle a une grande sœur, Mira, qui est 230e mondiale.
Il
a fait du bon boulot aujourd'hui, le psychologue.
Elle habite à Cannes. Est-ce qu'elle parle un peu français, Mira?
Oui, elle parle un peu français. Et on pensait qu'elle dirait quelques mots en français. C'est ce qu'elle avait fait lors de son premier interview.
Ok, 1.5 years. Thank you for making me better, giving me so many advices as well. Everything that you've taught me, I've been trying to use these 2 weeks, and I would say that it worked not bad. So thank you so much.
Tous les conseils.
C'est son psychologue, je crois.
Un psychologue qui habite en Floride, c'est ce qu'elle a précisé. Ah.
Alors, est-ce qu'elle va dire un petit mot en français?
Cette coupe,
pour aujourd'hui et pour 12 semaines magnifiques ici à Paris.
Elle reçoit une ovation, évidemment. C'est bien de faire l'effort.
C'est très important pour moi. Merci beaucoup pour votre soutien chaque jour. Starting from day one. I don't know how to say that in French, sorry.
À partir du premier jour.
Depuis le premier jour.
Bravo, moi.
C'est Gilles Moreton qui l'a soufflé.
I will continue in English. That's it.
Basically,
Paris is going to be having a very special place in my heart. So
thank you
for coming, supporting, and cheering on every player these 2 weeks.
Merci maintenant le public, les 15 000 spectateurs qui ont suivi ce tournoi pendant toute la quinzaine, qui a été une semaine assez extraordinaire avec plein de surprises.
I have to say something.
Elle veut dire quelque chose.
Last but not least. I also want to thank myself.
Ah, elle veut se remercier elle-même.
Elle s'est payée sur son survêtement. Son survêt, I want to thank myself.
I want to thank myself for believing in myself, giving my 100%, even when it's tough, trying every day to be better as a person and as a player, believing that I can do this, fighting so many demons inside of me.
Croire que je peux le faire tous les jours.
Only I know how tough it was for me and how nervous I was throughout these two weeks.
So also, thanks to myself
for working so hard and giving the test.
Alors ça, si c'est pas soufflé,
et c'est pas un peu du marketing, ça, Sarah?
Non, alors ça c'est du marketing, mais si c'est pas soufflé par le psychologue, je sais pas de qui c'est soufflé.
Ouais, mais t'as vu, tout est déjà écrit.
Oui, tout est déjà écrit
sur le survêtement.
Ça se passe pas comme ça dans le vélo.
Ah non, c'est pas
comme ça.
Ah, elle a passé.
Bon, ça, c'est frais quand même comme dispo, Christophe.
Ouais, non, mais elle est sympa. Elle est mignonne comme tout. Super championne. On rappelle qu'elle a 19 ans, cette gamine.
Oui, elle n'a que 19 ans, tu as raison.
Elle joue très bien sur herbe aussi. Hein.
Ouais. Mesdames, messieurs, les finalistes du simple dame Roland Garros 2026.
Ouais, voilà, la cérémonie s'achève avec Marie Pierce qui pose avec Gilles Moreton, les deux finalistes sur le podium de Roland Garros devant une
qu'est-ce qu'elle devient
de
Marie Pierce, Eric, Sarah, qu'est-ce qu'elle fait maintenant?
Marie Pierce, elle vit à l'île Maurice et elle se consacre à sa religion.
D'accord.
Voilà.
OK.
Voilà. Elle n'est pas plus investie que ça dans le tennis. Elle a commenté un petit peu pour France Télévisions certaines années, mais c'est quelqu'un qui a besoin de vivre une forme de retraite. Et on le voit, hein, le Roland Garros qu'elle gagne, elle a un chapelet autour du cou. Et c'est Marie qui avait demandé une salle de prière à Roland Garros. Et d'ailleurs, maintenant, il y a une salle qui est réservée à tous ceux qui veulent avoir un moment de recueillement, peu importe la religion. Mais elle a rencontré Dieu il y a quelques années et elle s'y consacre depuis longtemps.
Très bien. Voilà. Eh ben, c'est magnifique. Marie Pierce, donc, vainqueur de ce Roland Garros, c'était il y a 26 ans. En l'an 2000, elle avait battu Conchita Martinez.
Ah,
il y a un autre champion, là, qui est dans les coulisses. Il me semble apercevoir André Agassi, qui est là. Ah, lui aussi, il a pris un coup de jeu, quand même, Dédé, hein. Hein,
ça... oui, là, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de cheveux, André Agassi. Oui, il est commentateur pour la TNT. TNT.
Il a mis une petite sacoche à Yannick Sinner.
Ce qu'il lui a mis.
S'il n'est pas capable de tenir plus d'une heure 45 sur le terrain, il faut qu'il se pose des questions.
Il disait que lui, il avait 4 heures dans le moteur et quand il faisait chaud, un peu moins, 4h45. Mais Sinner, lui, il n'a qu'une heure 45, c'est un scandale. Ah, il envoie ça. Il n'y a pas que le coup droit qu'il envoie.
Il est bon,
Dédé. Merci à tous les deux. On va vous laisser enregistrer le podcast Cours numéro 1, comme tous les jours, évidemment, pendant les internationaux.
Qui n'est absolument pas ratable.
Ah, bah, surtout.
C'est le meilleur des podcasts.
Enfin, le meilleur, je ne sais pas. Il est pas mal. Il est pas mal. Il y en a d'autres qui sont au même niveau, je dirais. Mais il est pas mal et en tous les cas c'est tous les jours et vous pouvez le télécharger sur toutes les bonnes plateformes. Merci Sarah, merci Eric, on vous retrouve demain évidemment pour la finale homme. C'est qui déjà la finale homme, Eric? On s'y perd là. Je sais plus, il y a
c'est
abandon.
Un italien qui s'appelle Flavio Cobolli.
Flavio.
Et il jouera Sacha Zverev.
Ah, lui on connaît.
Ils sont tous les deux coachés par leur papa, c'est unique.
Ah, ok. 15h, rendez-vous est pris pour la finale homme demain qu'on vivra avec toi, Eric. Il n'y aura pas Sarah, mais il y aura Florent à la place. Sarah,
elle sera tout aussi bien.
C'est fini, quoi. 15 jours de boulot, maintenant elle va retourner à la maison. Merci à tous les deux. Il est 17h17, on repart à Monaco, retrouver Jean-Luc Roy avec cette fin de Q3 absolument incroyable, avec à la fin un Antonelli qui a retrouvé le sourire. Il l'a jamais perdu depuis le début de la saison d'ailleurs, Jean-Luc, hein.
Ah oui, il est incroyable. Écoute, alors on parlait de podcast, il y a le paddock RMC,
ouais, bien sûr, oui, bien
pas
sûr.
Louper, hein.
Il y a aussi entre les poteaux, il y en a plein.
Ils sont
tous les goûts, en plus, c'est ça l'avantage.
J'écoute tout, moi, ils sont tous excellents. Ah. Voilà. Alors, tout le monde a gagné, c'est l'école des fans, tu sais. Mais c'est surtout Antonelli qui est quand même le plus rapide. C'est surtout Kimi Antonelli, non, il est bluffant. Parce que là, il vient encore d'ajouter une pierre, et surtout celui pour lequel c'est le plus difficile actuellement, eh bien, il s'appelle Russell, George Russell. Il est seulement sixième de ses qualifs. Il s'est fait coller, pardonne-moi l'expression, 394 millième par ce gamin qui l'écrase au championnat. Et là, à la place de Russell, je me poserai des grosses, grosses questions. Et là, je peux te dire qu'il se les pose. Donc, bref, revenons à la joie d'Antonelli qui... vraiment étant son talent, hein, parce que on s'attendait pas à ce que les Mercedes soient aussi rapides dans les rues de Monaco. Sincèrement, on pensait les Ferrari légèrement supérieurs, on pensait Verstappen capable de tout, évidemment. Eh bien, c'est Antonelli qui a devancé tout le monde de 43 millièmes, hein, c'est pas beaucoup, mais Verstappen n'a rien pu faire. Verstappen qui avait déjà signé une pole, je le répète, et puis qui a remporté bien sûr la victoire dans ces rues de Monaco ici. Et il aura, Hamilton a fait une très belle qualif également. Il confirme qu'il est à l'aise dans la Ferrari puisque il devance Charles Leclerc. Charles Leclerc, donc le Monégasque, qui partira en deuxième ligne. Troisième ligne, Adjar Russell. Quatrième ligne, Piastri, Norris. Les deux McLaren un peu retrait. Puis Gasly sur la cinquième ligne avec Lawson.
Voilà qui est parfait, mon Jean-Luc. On te retrouve là aussi demain avec Nico Paolorsi pour vivre ce Grand Prix de Monaco. Ce sera à la même heure que la finale homme de Roland-Garros, 15h. Vous allez vous partager l'antenne et on va se régaler à vous écouter. Merci Jean-Luc. Bonne fin d'après-midi et à demain 15h pour le Grand Prix de Monaco. Il est 17h20 sur RMC. Je vous rappelle également la qualification de l'équipe de hand féminine de Metz pour la finale de la Ligue des Champions. Une autre équipe française pourrait rejoindre Metz. C'est Brest qui jouera tout à l'heure face hongroise de Győr. Et puis on va suivre également la troisième manche de la demi-finale de Pro A entre Nanterre et Monaco qui vient de débuter. Camille Borin va tout nous dire dans quelques instants. Et puis on va s'intéresser aussi au rugby parce que c'est une journée incroyable qui nous attend ce soir 21h05, la dernière journée de la saison régulière avec beaucoup beaucoup d'enjeux. Nos envoyés spéciaux vont tout nous dire dans un instant. On suivra également à 18h un autre match de rugby, mais cette fois-ci pour monter en top 14 entre Vannes et Provence Rugby. Bref, on va parler de tout ça dans un instant, sans oublier l'élu, le prodige Paul Sexas qui demain s'alignera au départ du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le Dauphiné pour les intimes, et on l'écoutera tout à l'heure puisqu'il a répondu aux questions de Maria Azé. Tout ça, c'est dans les 40 minutes qui viennent.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
17h24 sur RMC, on a vécu de très bons moments de direct tout au long de cet après-midi. La victoire d'Andréva dans la finale d'âme de Roland-Garros, la qualification, la pole position plus exactement de Kimi Antonelli au qualif du Grand Prix de Monaco, devance Verstappen, Hamilton, Leclerc, Adjar qui signe le cinquième temps et George Russell le sixième. Le départ de la course qui aura lieu demain à 15h. Et puis ce soir, un événement considérable, là aussi la dernière journée de la saison régulière de Top 14. Beaucoup d'enjeux, évidemment, parce qu'il reste encore des tickets à attribuer. D'abord le ticket pour savoir qui accompagnera Toulouse directement en demi-finale. Ils sont deux à se tirer la bourre, Montpellier et le Stade français. Quatre équipes sont déjà qualifiées pour le Top 6, mais il reste encore donc deux tickets à distribuer et beaucoup de prétendants, notamment le Stade Rochelet qui il y a deux mois était au fond de la classe, au fond du trou, et qui depuis a enquillé les bons résultats au point d'espérer encore pouvoir se qualifier. La Rochelle qui est septième pour l'instant du top 14, 68 points, il faut rentrer dans le top 6 et ça va pas être facile parce que devant ça va très vite. La Rochelle qui va affronter tout à l'heure 21h05 le Stade français, et j'imagine que la cité de La Rochelle est sans dessus dessous à quelques heures de ce match. On sait l'engouement qu'il y a autour de ce club du côté de La Rochelle. On va retrouver Romain Asselin qui sera au commentaire ce soir. Romain, salut.
Salut Chris. Salut
bon,
Chris.
Incroyable. Salut, si on t'avait dit ça il y a deux mois, que tu jouerais peut-être la qualif de La Rochelle dans le top 6, est-ce que tu aurais cru?
Non, parce que personne l'a fait de partir d'aussi loin. C'est clair, les Rochelais étaient dixièmes au mois de février après deux défaites à domicile, en plus de déculottés, pour rester poli. On les imaginait mal se remettre la tête à l'endroit avec un calendrier infernal. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont gagné 7 de leurs 8 derniers matchs. Maintenant, ils n'ont pas leur destin en main ce soir. Gagner contre le Stade français, ça paraît pas impossible, même si le Stade français vient très armé à De Flandre ce soir. Maintenant, La Rochelle, on va regarder ce qui se passe à Chaban, on va regarder ce qui se passe à l'Arena, parce que pour l'instant, les Rochelais sont 7e. Ils peuvent réussir une remontada que personne n'a jamais réussi dans l'histoire du top 14. Mais comme depuis deux mois, il va falloir regarder ailleurs.
Eh oui, c'est ça. Le problème, c'est que tu n'as pas ton destin entre tes mains. Et la victoire de Clermont au Racing la semaine dernière a fait beaucoup de mal aux Rochelais.
Ouais, les a tués. Les Rochelais nous l'ont dit cette semaine. Ils y croyaient pas. Pour une fois, ils pensaient avoir leur destin en main samedi dernier. Ils ont éclaté Montauban comme tout le monde là-bas à Sapiac. Ils étaient passés devant. Et puis le dimanche, l'UBB a pris un point de bonus défensif à Toulon, donc est passé devant. Et puis le Racing a gagné à Clermont. Et donc du coup, même une victoire bonifiée en toi compte ce soir de La Rochelle contre Paris. Alors il faut le faire hein, pour aller aller chercher 5 points face aux hommes de Paul Gustard. Mais même une victoire bonifiée pourrait ne pas suffire. Et c'est un scénario qui est déjà arrivé au Rochelet en 2018. Et même l'année dernière, alors l'année dernière, ils avaient leur destin entre leurs mains. Ils avaient fait une remontada extraordinaire aussi. Ils étaient en pleine bourre. Ils avaient leur destin entre leurs mains. Ils ont chuté à Pau. Mais Clermont, l'année dernière, avait réussi ce que La Rochelle doit réussir ce soir. Donc tu me diras, avec tout ce qui se passe et tous les résultats incroyables, impronosticables qu'on a depuis maintenant quelques semaines en top 14, bah, pourquoi pas. Voilà.
Tu y crois? C'est l'essentiel, c'est que tu y crois, Romain.
Non, bah, je sais pas. Après, c'est pas à moi d'y croire. Écoute, ouais, on va voir. Hein.
J'en connais un, Lionel Paco, il y croit. Il est en train de nous écouter. Il est à bloc. Il est maquillé comme jamais pour, en jaune et noir pour le match de ce soir. Et ça va être une ambiance de folie à De Flandre, évidemment. Guichet fermé, forcément, non?
Tu poses vraiment la question. 118e guichet fermé de suite.
118e, c'est bien. Tu tiens les comptes. Merci, Romain. À tout à l'heure, 21h05, donc, pour ce match incroyable entre La Rochelle, 7e du top 14 et le Stade Français, qui, en cas de victoire, eh bien, pourrait accompagner tout directement en demi-finale. On l'a vu, Romain vient de nous le dire, les Parisiens qui arrivent équipés du côté de De Flandre. Autre match que l'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, celui qui va opposer l'Union Bordeaux-Bègles, le vainqueur de sa deuxième Champions Cup, c'était il y a 15 jours à Bilbao, l'UBB, qui n'est pas encore assuré là aussi de jouer les phases finales. Pour cela, il faut s'imposer face à Clermont ce soir. Pierre Thévenet va vivre ce match, va nous faire vivre ce match. Là aussi, toute la région bordelaise est en émoi avant cette rencontre. L'UBB qui malheureusement a enregistré pas mal de forfaits pour ce match, et pas des moindres, hein, Pierre.
Ouais, exactement. Mathieu Jalibert, surtout, qui est absent ce soir. Cameron Wauquiez également. Ben Tamifuna, pour lui, la saison est terminée. Donc, des absents de marque. Tu parlais évidemment de tout Bordeaux qui est derrière. Ce n'est que le 34e guichet fermé consécutif à Chabon-Delmas. C'est encore loin
de Flandre.
Mais évidemment, ça tombe très bien. D'autant qu'il y a aussi une étape du circuit mondial à 7 aujourd'hui, enfin, tout le week-end. Donc, il y a beaucoup de rugby à Bordeaux ces deux jours. Tu disais Bordeaux doit gagner pour se qualifier, mais ça pourrait là aussi pas suffire. C'est ça qui est dingue de ce côté-là aussi. Bordeaux a son destin entre les mains, mais doit gagner avec le bonus offensif pour s'assurer une qualification. S'il gagne sans le bonus, ils devront espérer soit une défaite du Racing, ou bien que le Stade Rochelet, dont on parlait juste avant, ne prenne pas 5 points. Donc là aussi, ça va être chaud jusqu'au bout. Ils sont évidemment favoris parce qu'ils n'ont pas perdu à domicile contre Clermont depuis 2017. Donc les Bordelais font figure de favoris, bien sûr. Et Clermont a de son côté vendangé ses chances en perdant largement à la maison face au Racing la semaine dernière. Donc match qui semble déséquilibré, mais attention,
est-ce que,
ouais,
est-ce que justement la victoire, enfin la défaite face à La Rochelle a peut-être servi d'électrochoc pour Clermont? J'imagine que Christophe Furios a dû travailler là-dessus tout au long de la semaine. Hein.
La situation, même si elle est très inconfortable du point de vue comptable, elle semble parfaite pour Christophe Furios, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire des calculs ou quoi que ce soit. Il l'a dit chez nos confrères d'ici cette semaine, disant on ne va pas faire de vidéo du Racing, on ne va pas faire de vidéo de Bordeaux, on va y aller pour gagner, et c'est tout ce qu'il leur reste à faire. Ils l'ont déjà fait cette saison, de faire des gros coups à l'extérieur. Ils ont gagné à Toulouse et à Montpellier. C'est évidemment la seule équipe du top 14 à avoir réussi ces deux exploits, et donc évidemment qu'ils peuvent y croire, d'autant que sur les dernières journées, il y a une stat qui est intéressante, Christophe, pour le Clermontois. Sur les 19 dernières années, Clermont a gagné 17 fois la 26e journée de top 14. C'est-à-dire qu'ils sont très forts sur le sprint final. L'an dernier, ils étaient allés arracher leur qualif à Montpellier lors de la dernière journée. Donc, évidemment que c'est possible.
Là aussi, ils ont mal lancé le sprint, mais on ne sait jamais sur l'emballage final. Ils peuvent se réveiller. Je sens ton cœur Clermontois qui s'agit d'un peu.
Non, mais évidemment qu'ils peuvent y croire. Mais comme La Rochelle, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Donc, il faut gagner et il faut espérer soit une défaite du Racing, soit une défaite de La Rochelle. Donc, évidemment que c'est pas fait du tout pour les Clermontois, mais ils vont tout jeter dans la bataille.
Eh bien, on verra ça là aussi avec toi ce soir, 21h05, pour cette UBB Clermont qui sent la poudre. Il y en a un autre de match qui sent la poudre, celui qui va opposer le Racing à Toulouse, le Racing vainqueur, je le disais, donc de Clermont qui s'est relancé complètement, mais qui a besoin, vu l'adversité qui se trouve dans les rétros, qui a besoin d'une nouvelle victoire face à ce qui se fait de mieux dans le rugby français, le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui a déjà sa qualif dans la poche, mais qui est vexé d'avoir été critiqué ces derniers temps. Alors, est-ce qu'on va assister au réveil toulousain avant les phases finales? Je pose la question à Clément Cressio qui va nous commenter ce match ce soir. Salut Clément.
Bonjour Christophe.
Ouais, donc quel Toulouse ce soir? C'est Toulouse un peu qui a la clé en main, Clément. Hein.
Alors, Toulouse a la clé en main, oui, mais le Racing s'est donné le droit, on va dire, d'avoir aussi son destin entre les mains, on va dire, avec cette grosse victoire contre Clermont la semaine dernière. Il suffit de gagner ce soir. Voilà, il y a plein d'hypothèses possibles, mais le constat, il est simple. Il suffit de gagner pour être dans les six. Alors, en face, il y a un Toulouse qui arrive avec une équipe un peu hybride. Ils travaillent leur demi-finale puisque les Toulousains sont assurés d'être premiers. Alors, on va retrouver des joueurs cadres comme Julien Marchand, capitaine au talon. On va voir Alexandre Roumat en numéro 8, Calvin Gourg au centre. Mais il y a aussi des petites expérimentations parce qu'on retrouve, par exemple, Thomas Lacombre, le jeune talonneur qui est avec le numéro 6 ce soir, donc titulaire en troisième ligne. On a en tout quatre piliers droits sur la feuille de match sur le banc. Par exemple, il y a Joël Merkler qui va sûrement devoir rentrer en deuxième ligne. Il a déjà joué un peu à ce poste-là, mais c'est pas son poste préférentiel. Il n'y a pas de Dupont, il n'y a pas de Graou, ce sera Naoto Saito, le japonais, qui va tenir le poste de demi de mêlée, accompagné par Blair Kingord en numéro 10. Il a joué que 5 fois à ce poste avec le Stade Toulousain. Il y a tout de même un retour intéressant à enregistrer aussi, c'est Ange Capuzzo qui était remplaçant la semaine dernière. Là, il est titulaire, il postule pour les phases finales. C'est aussi ce qui est intéressant avec ce Toulouse-là, c'est l'émulation, c'est tous les joueurs qui veulent essayer de gratter leur place pour les phases finales. Et surtout un gros banc, je te le donne rapidement, Guillaume Cramon, Cyril Baye, donc Joël Merkler, Jack Willis, François Cross, Thomas Ramos, Mathis Lebel et Georges-Henri Colombe. Alors attention, là, la sortie de banc vers l'heure de jeu, ça pourrait peut-être faire mal à ce Racing qui va vouloir l'emporter. C'est obligatoire pour être dans les 6 sereinement.
Choc donc énorme ce soir entre le Racing et Toulouse. Clément Cressio sera au commentaire de ce match. D'autres rencontres ont également beaucoup de suspense et beaucoup d'enjeux. Lyon-Montpellier notamment, les Montpelliérains qui veulent à tout prix terminer dans les deux premiers, donc se qualifier directement pour les demi-finales. Ça passera par une victoire sur la pelouse du Loup. Et puis, ça devrait être plus facile pour la section paloise qui là aussi devrait décrocher, c'est sûr, même a déjà décroché son billet pour les phases finales. Mais joueront-ils à domicile ou à l'extérieur le match de barrage? Il suffit de battre Montauban et ça devrait permettre aux Palois de recevoir en barrage. 17h34, tous ces matchs sont à suivre tout à l'heure à 21h05 en direct sur RMC. 17h34, dans un instant, on va parler d'un autre match de rugby, celui qui va opposer Vannes à Provence Rugby. C'est la finale de la Pro D2. Le vainqueur de ce soir jouera dans l'élite la saison prochaine. Wilfried Templier va tout nous dire dans un instant.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cécile.
17h30, vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix parce que les heures qui s'annoncent vont encore nous faire vivre de grands moments de sport. On a déjà eu la finale dames tout à l'heure à Roland-Garros, remportée par la jeune russe Mira Andreeva. On a eu également les qualifs du Grand Prix de Monaco. On a eu la qualif de Metz pour la finale de la Ligue des Champions féminines de hand. Et puis on aura ce soir à 21h05 la dernière journée du top 14. On vous en a donné les principaux enjeux. Autre direct à suivre, ce sera dans maintenant une vingtaine de minutes à Toulouse, au stade Ernest Vallon, la finale de Pro D2 avec cette rencontre entre Vannes et Provence Rugby. Peut-être pas malheureux vaincu, mais en tous les cas, gloire au vainqueur, puisque le vainqueur de ce match évoluera la saison prochaine en top 14, et on sait combien c'est important dans la vie d'un club. Vannes, qui était en top 14, non pas la saison dernière, mais celle d'avant, qui était redescendu après avoir vaillamment défendu ses chances, affronte donc le club de Philippe Saint-André. Provence Rugby, c'est le club d'Aix-en-Provence. Et pour parler de ce match, Wilfried Templier, évidemment, on ne renie pas, on a mis beaucoup de blé sur l'affaire. Comment ça va, mon Wilfried?
Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Bon, c'est une très belle affiche, Vannes-Provence Rugby. Alors, le gros problème, et on en parle régulièrement sur cette antenne, c'est évidemment cette façon de se qualifier, d'accéder au top 14. Vannes a dominé toute la saison, Vannes devrait déjà être en top 14, mais non, le procédé veut qu'il passe par une finale pour espérer y être, et c'est pas gagné d'avance.
Bah oui, parce que Vannes avait 116 points à la fin de la phase régulière et Colomiers, le deuxième, en avait 95. Donc c'est sûr qu'ils ont dominé de la tête et les épaules cette phase régulière. Mais tu l'as dit, il faut, c'est comme en top 14, le premier n'est pas champion. Ouais. Il faut aller gagner la finale. Vannes suit son chemin, a battu Oyonnax en demi-finale 48-7 et grandissime favori de cette finale. Mais voilà, en face, Provence Rugby n'était pas le deuxième, mais le troisième de la saison régulière, mais a créé la surprise. Bon, en battant Brive, c'était normal en barrage 39-21, mais surtout en allant gagner à Colomiers 36-28 et Aix-en-Provence, et surtout sur une série de 7 victoires consécutives et en finale de Pro D2 qui se joue depuis 4 ans maintenant à Ernest Vallon. Ce sera encore le cas l'année prochaine, après on verra où se jouera cette finale, mais eh bien on a déjà vu des surprises pas plus tard que l'année dernière. Bon, ça n'a pas été une grande réussite pour Montauban, mais tout de même, parce qu'ils redescendent aussi sec avec 7 points seulement glanés cette saison top 14, mais ils avaient renversé les pronostics en battant Grenoble 24-19 l'année dernière ici. Vannes avait battu Grenoble aussi il y a 2 ans, 16-9. Oyonnax avait battu Grenoble il y a 3 ans, 14-3. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Philippe Saint-André, le manager de Provence Rugby, l'a dit. C'est une autre compétition qui a commencé. C'est le rugby. C'est les phases finales. Donc, c'est un peu la magie aussi, mais ça récompense pas toujours le plus fort de, sur l'année.
Ouais. On va écouter justement Philippe Saint-André, qui était à ton micro hier et qui se désespérait de pas avoir été appelé par le SMS depuis des semaines. Bah, ça a été comblé, sa demande. On écoute.
Ah, vous avez pas cru en nous, Moscato Show, ils m'ont appelé hier. Ça fait 10 mois que je les attends. Non. Ce que je dis, et je le répète depuis le début de saison, on est des outsiders ambitieux. Mais bon, même en début d'année, on n'était pas dans les 4-5 prétendants, donc on reste là-dessus. On aurait voulu finir second, hein, avec 92 points normalement. Sur les 10 dernières années, tu finis second, mais par contre, ce que j'ai dit à mes joueurs, il y a 30 journées, et après il y a une nouvelle compétition, il y a 30 journées, et après quart, demi et finale. On est en finale, on est là, on va jouer contre une très grande équipe, qu'on respecte, mais on vient pas en victime, voilà. On vient pour faire un match de rugby.
Incroyable parcours que celui de Philippe quand même, hein, qui a été sélectionneur de l'équipe de France, qui n'a pas eu évidemment la génération idéale pour y briller, qui a ensuite été le coach principal de Montpellier, qui a amené Montpellier au bouclier de Brennus, et ça c'était quand même pas gagné d'avance. Et là il se redécouvre avec cette équipe de Pro D2 qui l'amène dès la première, non c'est la deuxième ou la première saison, qui l'amène à la finale de Pro D2, deuxième saison. Quand même, quelle belle réussite pour Philippe.
Oui, quelle belle réussite. Bon, il y a de l'ambition, hein, du côté de Provence Rugby, d'Aix-en-Provence. Hein, y a des moyens. Et puis, je t'ai dit, il y a une dynamique. Hein, 2 mois sans défaite pour eux. Et souvent, dans les phases finales, les dynamiques, elles comptent. Ils ont eu des matchs très importants. Ils ont gagné sur les 7 victoires de suite. Ils ont gagné lors du deuxième match à Béziers, alors qu'ils devaient perdre sur une interception. Et derrière, Soyaux, ils ont battu Vannes, alors qu'ils étaient menés 24-0 à la mi-temps. Ils ont gagné à Valence. C'était pas facile. Battu Brive. Gagné à Colombier, donc attention pour les Vannetais, même si tu l'entends Christophe derrière moi, il y a une invasion bretonne à Ernest Vallon, c'est incroyable. Ils annoncent 8000, on annonce 8000 supporters bretons, j'ai l'impression qu'il y en a plus, hein, parce que depuis janvier, ça réserve des places. Il y a des Bretons partout. Ça me rappelle il y a 2 ans où ils avaient rejoint le top 14. Vannes est descendu l'année dernière avec plus de points qu'en à Perpignan cette année, parce qu'il n'y avait pas un Montauban en 14e position. C'est vrai que pour le développement du rugby, on parle de la Bretagne.
Mais c'est bien aussi de voir une équipe du Sud-Est aussi. Parce que là, c'est deux régions qui.
Importance en tout cas.
Franchement, Wilfried, ce qu'a fait Vannes la saison dernière m'a régalé. Hein, franchement, en top 14, ils ont vraiment tenu leur rang. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils se sont accrochés jusqu'à la fin. Donc j'ai un total respect pour cette équipe. Après, j'ai une petite affection particulière pour Philippe et pour Aix-en-Provence. Provence où j'ai fait mes études et voilà mais c'est deux régions qui ont besoin Aix, il y a Toulon qui est pas loin mais Vannes c'est vraiment un territoire à conquérir pour le rugby et ils ont commencé à le faire avec cette équipe de Vannes. Bref, on va se régaler ce soir, coup d'envoi donc
la dramaturgie, ça va être exceptionnel, ça va être énorme. Les finales de Pro des deux sont exceptionnelles.
Bon, eh ben on va se régaler avec toi tout à l'heure 18h pour ce Vannes Provence Rugby. À tout à l'heure Wilfried, et puis tout à l'heure, puis en rentrant à la maison tout à l'heure, il nous donnera tous les enjeux en temps réel de top 14, les avantages points terrain et tout ça, ça il faut avoir fait maths sup, maths sup pour y arriver. Et on a délégué Wilfried tout à l'heure à partir
de... Si les profs de maths entendent ça, ils vont rigoler. Bref.
Ils vont perdre leurs cheveux. À tout Wilfried.
À tout à
17h45. Dans un instant, nous partons pour les Alpes. Le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement appelé Critérium du Dauphiné, ça sonnait quand même mieux, va débuter demain avec un favori ou en tout cas un outsider incroyable. Il se nomme Paul Seixas et Maria Azé vient de le rencontrer. On va écouter l'élu, le prodige français qui espère bien remporter cette course face à une adversité redoutable. On en parle dans un instant dans Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
17h48, vous êtes sur RMC, Mira Andreeva, vainqueur de Roland-Garros. Le rugby, ce sera ce soir avec, dans quelques instants, la finale de Pro D2 entre Provence et Vannes. Et puis ce soir, la 26e et dernière journée de la saison régulière de Top 14. On a vu également Antonelli ravir la pole position au Grand Prix de Monaco. Et puis, on attend également un gros événement, un immense événement demain avec le début du tour de Ronald Pover. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce nouveau tour, sachez que c'est pas un nouveau tour, hein, que cette compétition existe depuis très longtemps, mais qu'on en a changé la dénomination. On est passé du Critérium du Dauphiné, bien connu de tous les amoureux de vélo, au Tour de Rhône-Alpes-Auvergne. Bah oui, on a dû changer de sponsor. Maria Azé est là et elle va vivre un Tour de Rhône-Alpes-Auvergne magnifique demain, avec évidemment en ligne de mire le Tour de France qui débutera dans quelques semaines maintenant, et quelques-uns des gros outsiders de ce Tour de France seront au départ de ce Tour demain, au départ de Vizille. Vizille, c'est le lieu de naissance d'un certain, enfin pas le lieu de naissance, mais là où habitait un certain Thierry Claverolla, surnommé l'aigle de Vizille, et qui a régalé le Tour de France pendant des années avec le maillot de meilleur grimpeur. Maria Azé, bonjour Maria, comment ça va?
Salut Christophe. Alors sache que c'est le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez ne serait pas content avec
oui,
toi
non,
si
mais
tu
moi,
inverses
j'appelle
le
Rhône-Alpes et le Dauphiné. J'appelle le Dauphiné parce que je trouve que c'est dommage de désidentifier une course comme ça. Tout le monde le connaît sous le nom de Dauphiné. Alors il y a des problèmes de sponsors, et j'imagine que Wauquiez a mis beaucoup de sous là-dedans pour racheter le nom, mais je trouve ça dommage, vois-tu, c'est comme ça, et moi je l'appellerai encore le Dauphiné. Alors Maria, problème d'identification, en tous les cas il y en a un qui n'a pas de problème et qui est très ambitieux, c'est donc Paul Seixas qui va s'aligner demain sur cette course. Il avait terminé 8e l'année dernière, mais là son ambition c'est pas 8e, c'est clairement pas 8e, hein.
Ouais, bah c'est là qu'on voit l'évolution incroyable de Paul Seixas depuis un an. Il termine 8e du Critérium du Dauphiné l'année dernière. Cette année, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il vient pour jouer la gagne, clairement. Donc c'est là vraiment qu'on voit l'évolution du coureur de 19 ans. Justement, on lui a posé un petit peu la question parce qu'on parle souvent du Tour Auvergne-Rhône-Alpes comme une grande répétition du Tour de France. On vous le rappelle, il participera bien au Tour de France au départ de Barcelone le 4 juillet prochain, Paul Seixas. Et donc, on lui a demandé de poser la question, est-ce que ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une simple répétition ou alors, il y a vraiment l'objectif de gagner avec un petit focus sur le Tour de France. C'était tout à l'heure avec Paul Seixas.
J'y attache l'importance particulière parce que c'est une course qui se fait souvent avant le tour, de préparation que j'ai faite l'année dernière, qui me plaît beaucoup. Ça va me permettre de me juger un peu du travail que j'ai fait en altitude avant, de voir un peu les bénéfices. On verra comment ça se passe.
Voilà, alors pour concernant ses adversaires, hein, Paul Seixas, tu le sais Christophe, pas de Pogacar qui préfère le Tour de Suisse, pas de Vingegaard qui vient juste de remporter le Tour d'Italie, pas de Remco Evenepoel non plus, forfait un peu de dernière minute, qui préfère se préserver pour le Tour de France, mais tout de même méfiance aux adversaires qui seront revanchards du Tour du Pays Basque que Paul Seixas avait écrasé, notamment Isaac Del Toro et Juan Ayuso qui seront ses gros adversaires pour ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Je pense que c'est bien d'avoir l'esprit revanchard, c'est vraiment bien d'avoir une rivalité. Et la rivalité, forcément, il y a des très bons coureurs, encore que j'ai battu aux Pays-Bas. C'est que le compteur est remis à zéro. Je pense que c'est ça aussi le principe de la course, c'est ce qu'on aime en tant que coureur, se battre pour aller chercher la gagne. On a forcément, c'est jamais gagné d'avance. Et c'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver, d'avoir une belle rivalité pour se battre jusqu'au bout pour aller chercher la victoire.
Voilà, belle rivalité effectivement, puisque s'il n'y a pas Pogacar, s'il n'y a pas Vingegaard qui vient de remporter le Tour d'Italie, il y a quand même d'autres jeunes loups aux dents longues, hein, sur cette course, Maria, notamment Isaac Del Toro qui sera le lieutenant numéro 1 de Pogacar lors du Tour de France et qui là arrive en leader avec l'intention là aussi ferme de s'imposer, hein.
Oui, bah clairement, il s'est déjà fait battre plusieurs fois par Paul Seixas depuis le début de saison. On l'a vu au Strade Bianche où il termine troisième. Bon, on sait pas trop s'il l'a laissé gagner ou enfin s'il lui a laissé la deuxième place ou pas. Mais en tout cas, voilà, Paul Seixas, il l'a battu plusieurs fois, il l'a écrasé évidemment sur le Tour du Pays Basque aussi. Et là, il aura cet esprit de revanche chez Isaac Del Toro. Il est pas dans l'ombre de Tadej Pogacar, donc il faut qu'il en profite. Et évidemment, on sait que c'est un immense coureur. Il avait eu quelques petits soucis de maladie sur le Tour du Pays Basque. On espère qu'il est bien remis et ça pourrait nous donner une grosse bataille dès demain d'ailleurs, Christophe. Ah oui. C'est une première étape qui est assez incroyable. Ouais, on nous parle beaucoup de l'étape, la première étape la plus difficile de l'histoire du Critérium du Dauphiné. Donc on pourrait déjà avoir une grosse bataille entre les trois dès demain.
Ah ouais, l'avantage de cette course, c'est que ça n'arrête jamais, ça monte et ça descend tout le temps. Hein. Il y a quasiment pas d'étape plate. Peut-être le contre-la-montre par équipe, la troisième étape, la cinquième étape peut-être avec
une étape de sprint. Ouais, une étape de sprint c'est tout.
Et autrement, il y a aussi ce contre-la-montre par équipe qui est très intéressant, hein, Maria, parce que il y en aura un aussi de chrono par équipe durant le Tour de France. Et l'équipe CMH CGM Décathlon est bien équipée pour espérer aller chercher la victoire dans ce chrono par équipe. Hein.
Bah oui, très clairement, c'est vraiment la grosse répétition avant le tour. Alors il y aura ce chrono par équipe lors de la première étape, ce sera à Barcelone, et donc là, bah on a assez peu l'occasion finalement pour une équipe de s'entraîner sur un contre-la-montre par équipe. Il faut louer un circuit, c'est vraiment un gros investissement, c'est beaucoup de logistique, et donc là sur le Critérium du Dauphiné, on l'avait déjà eu sur Paris-Nice, et bien là ça donne une nouvelle chance de s'entraîner sur ce chrono par équipe pour l'équipe Décathlon CMA CGM, qui évidemment en fait un gros objectif avec Paul Sexas qui est très bon. Alors pour rappel, le temps sera pris sur le premier coureur à franchir la ligne. C'est comme ça que ça marche. Donc le premier, c'est un peu par équipe, mais au final, à la fin, s'il y en a un qui veut s'échapper parce qu'il sent qu'il est plus fort que les autres, les coéquipiers vont essayer de l'emmener le plus loin possible. Et à la fin, il s'échappe tout seul, probablement Paul Sexas, pour aller faire gagner son équipe. Mais oui, il a une grosse équipe autour de lui. Évidemment, Aurélien Paré-Pinte, Mathieu Ricciatello, Nicolas Prodhomme, Léo Bisio. Voilà, une grosse équipe autour de Paul Sexas. Probablement l'équipe qui devrait ressembler à l'équipe qui sera sur le Tour de France dans un mois.
Oui, encore quelques petites incertitudes concernant Lavcoy, le sprinter ou Tige Benoît, qui ont connu un printemps difficile. Tout va dépendre de leurs résultats dans les jours qui viennent, mais ils ne sont pas alignés sur le Tour de Ronald Poverne, ces deux-là. Donc c'est aux autres de montrer qu'ils sont indispensables auprès de Paul Sexas. Ça fait un moment qu'un Français n'a plus gagné le Dauphiné, Maria. Tu étais toute petite la dernière fois.
Ah oui, j'avais 7 ans, Christophe Moreau en 2007, ça date un peu. Alors Paul Sexas avait déjà battu le record de Christophe Moreau en devenant le premier coureur à remporter une course par étape World Tour lorsqu'il avait remporté le Tour du Pays Basque. Et là il pourrait encore battre Christophe Moreau s'il venait à remporter ce Critérium du Dauphiné, ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pardon.
Très bien, à suivre donc à partir de demain avec toi Maria, tout au long de la semaine on va vibrer aux exploits de Paul Sexas en espérant évidemment qu'il brille. Il y a un message, clairement un message à envoyer à tous ceux qui l'affrontera dans le Tour de France dans quelques semaines maintenant. Merci Maria. 17h56, voilà, plein de moments très excitants à venir. On vous le disait, le rugby dans un instant avec la finale de Pro D2, le rugby ce soir avec la dernière journée de Top 14, le Dauphiné demain, le Grand Prix de Monaco demain, la finale homme de Roland Garros. Quel week-end de dingue. Et pour poursuivre dans un instant dans l'Intégral Sport, François Pinet va prendre ce micro accompagné de Yann Delegue. Là aussi il y a plein de choses à voir. Il y a aussi une petite équipe de France de foot qui s'apprête à faire une Coupe du Monde. François, non,
ça va, Christophe?
Bah ouais, ça va, j'ai plus donné de la tête, il y a tellement de trucs.
Non, mais alors surtout il y a une équipe de Metz.
Ah oui, en finale de la Ligue des Champions.
Ça, c'est incroyable.
Ah ben là, c'est mieux qu'en
Metz, en finale de Ligue des Champions. Tu te rends compte? Ça, si on m'avait dit ça un jour. Bon, on verra si c'est contre Brest. On en parlera évidemment dans l'Intégral Sport. On parlera de foot, tu as raison, à partir de 19h. On prendra des nouvelles des Bleus puisqu'ils sont actuellement à l'entraînement quelques jours de cette Coupe du Monde de foot. Restez bien avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC. Intégral Sport.